Bonsoir messieurs, dames, merci d'être présents à cette assemblée générale, malgré le beau temps. Remarquez, on est aussi bien ici que dehors, sous la canicule. C'est vrai qu'il y avait les soldes quand même, ça pouvait être intéressant. Bon, d'autres, cette assemblée, je vais d'abord procéder à la lecture des noms des personnes qui se sont excusées. Alors Alain Claës, c'est un peu dommage, on avait déplacé notre réunion pour qu'il puisse venir, et au dernier moment, il a hérité d'une autre réunion, ce qui fait qu'il n'est pas là, mais il s'est excusé. Christine Sarrazin, Baudou, Christiane Fraisse, Gilles Rabhi, le doyen de la SFA, Jean-Paul De Witt, le directeur du CHU, Gabriel Bianchiotto, qui est membre de notre bureau, Dominique Briat et Michel Brunet, qui n'ont pas pu être là, mais qui se sont excusés. Bon, alors il y a une autre personne qui ne va pas être présente, qui m'a écrit, c'est le DRRT, Francis Côté. Alors, il y a un petit problème, on en reparlera plus tard, presque vers le milieu de notre réunion. C'est suite à un article qui est paru dans la Nouvelle République hier, où il était question du ministère, mais il y a eu un micmac, c'est que le ministère, c'était le ministère de la Recherche, parce que du côté ministère de la Technologie, au contraire, nous sommes parfaitement suivis, mais ça pouvait être un petit peu ambigu, et donc il a préféré ne pas venir. D'ailleurs, c'est pas qu'il a préféré, hein, c'est le ministère qui lui a conseillé de ne pas venir. Il nous a écrit une lettre, et je vous la lirai à ce moment-là. Qui lui a demandé de ne pas venir, et la lettre, je vous la dirai le moment venu. Donc voilà, au cours de cette réunion, il y aura une dame qui est présente parmi nous, qui est Christiane Girardi, qui est maire d'une ville du Chili avec laquelle l'Espace Mendès France est en train de développer des collaborations, et vers la fin de la séance, elle vous exposera, elle parlera de son université des travailleurs et de ce qui va se passer dans le cadre de la collaboration avec l'Espace Mendès France. Donc voilà le cadre. Alors traditionnellement, on commence par un mot du président. Vous l'avez à l'intérieur, donc je ne vais pas le commenter, ce mot du président. Je voulais simplement vous dire que depuis presque 9 ans, oui, ça fait 9 ans que je suis ici, j'ai vu une évolution très forte de l'Espace Mendès France. Actuellement, l'Espace Mendès France a une dimension qui n'est plus qu'une dimension locale sur Poitiers, mais qui a amplifié fortement sa dimension régionale, sa dimension française, nationale, et sa dimension internationale. Et ça, je l'ai vu évoluer d'une façon continue, en ouvrant de nouveaux chantiers, en modifiant ce qui existait. Ça ne veut pas dire pour ça que l'on a abandonné ce que l'on fait, on le fait toujours, mais on s'est diversifié de plus en plus. Et pourquoi est-ce qu'on peut faire ça? Parce qu'il y a une demande, parce qu'on a envie de le faire. Et c'est quelque chose qui est très stimulant pour l'équipe de Mendès France, à qui je tiens à rendre hommage parce qu'elle est toujours extrêmement professionnelle, extrêmement efficace dans tous les domaines. Et je mets tout le monde, je mets de notre directeur bien-aimé jusqu'au responsable des différentes équipes, et effectivement tout le personnel, les techniciens, les hôtesses. Je tiens à les remercier fortement, et aussi au réseau très fort de tous les bénévoles. Alors les bénévoles, ils interviennent à plusieurs niveaux. C'est des bénévoles qui interviennent dans le bureau, nous sommes une petite trentaine, mais ils interviennent aussi sur les expositions. Alors ce n'est pas toujours les mêmes, évidemment, ça dépend du thème de l'exposition. J'en vois dans la salle que j'ai vue récemment pour la dernière exposition qui a été faite. Ils sont de tous les horizons, et ça je les remercie beaucoup, parce que ça nous permet de bien nous implanter dans la ville, ça nous permet de rendre le fait que Mendès France, ce n'est pas une structure, une verrue qui vient se placer là, c'est vraiment un lien entre la société, et puis les gens de la ville, et la société de la commune, mais tout universitaire, mais aussi économique de toute la ville. Alors ça, c'est pour ce qui se passe au niveau de Mendès France, mais il y a aussi une collaboration en région. Alors je vous disais que la collaboration en région, elle s'est amplifiée. Tout à l'heure, dans l'exposé, Didier vous expliquera tout ce que l'on fait dans le cadre de la politique régionale, et vous verrez que c'est quelque chose qui est assez important. Alors l'exposé va se passer, comme d'habitude, en 4 points. Le premier, vous allez voir un PowerPoint qui va vous donner toutes les activités qui se sont déroulées en 2007, et qui vous êtes présentées par Didier avec les commentaires. Mais les commentaires, ils ne seront pas forcément aussi importants. Vous avez aussi important que tout ce que vous allez trouver dans ce petit dossier, qui n'est pas si petit que ça, où on vous rappelle tout ce qui s'est fait dans l'année. Alors c'est très bien, parce que les compléments à ce que va vous dire Didier, vous les trouverez à l'intérieur. Ça, c'est le premier point. Donc, on discutera, puis on votera. Ensuite, il y aura l'aspect financier qui sera présenté par notre trésorier Henri Guimaron. On votera, on discutera, on votera. Et ensuite, on abordera la question prospective, ce qu'il y a pour 2008 et pour les années suivantes, ce que l'on compte faire. Ensuite, Madame Girardi viendra nous exposer ce problème de son université. Elle s'est exprimée, j'ai déjà eu l'occasion de l'entendre, c'est fort intéressant ce qu'elle veut faire. Et enfin, nous aurons un coup à boire. Non, avant le coup à boire, on aura encore autre chose. Et je ne résiste pas au plaisir de vous dire ce qui s'est passé dans le long... C'est un long phénomène. Vous savez, je vous ai dit, j'ai eu déjà l'occasion de vous dire plusieurs fois qu'il y avait des inspecteurs généraux qui étaient venus nous voir, qui nous avaient demandé un rapport. Et puis, enfin, ça vient de sortir. Au mois de janvier, le 18 janvier, on a appris que l'on était labellisé. Enfin, on est labellisé sous le terme... Didier, dis-moi...
Non.
Sciences et culture, innovation. Alors donc, dans tous les centres de culture scientifique, ils en ont sélectionné un certain nombre, ils en ont retenu un certain nombre, et ensuite, ils ont donné cette appellation, pour l'instant, à 11 centres. Et alors, on a reçu une petite lettre, et ça c'est très récent, c'était à la fin du mois de mai, et voilà ce que disait cette lettre. Alors, je vous le lis, pour être sûr de rien oublier. Le comité de labellisation allant même jusqu'à souligner les actions remarquables conduites par l'espace Mendès France, ou les méthodes particulièrement pertinentes qui pourraient faire l'objet d'un partage de bonnes pratiques parmi les CCSDI au plan national. Alors, ils ont cité quelques-uns. Les partenariats avec l'université et l'éducation nationale. L'action relative au handicap. Alors ça, on vous en parlait tout à l'heure. C'est quelque chose qui a commencé à se développer l'année dernière et que l'on est en train d'amplifier. L'approche sociétale de recherche sur la science. Ça aussi, de plus en plus, on se rend compte qu'il ne faut pas parler de la science que pour la science, mais il faut la placer dans la société. Donc ça a été remarqué. Et notre activité développement durable. Vous savez que pendant 3 ans, on a eu un cycle de conférences sur le développement durable. Donc voilà, c'était pour se faire plaisir, mais j'espère que ça vous fait plaisir aussi d'être à l'Assemblée des Générales d'une association qui est aussi bien reconnue. Je vous en dirai pas plus et je passe maintenant la parole tout de suite à Didier pour qu'il vous parle de notre activité en 2007.
Bien, merci Monsieur le Président. Donc bonsoir à tous. Je voulais simplement vous signaler que notre association, j'en dirai un mot tout à l'heure, aura 20 ans en janvier prochain et que, comme c'est une jeune association, on a la chance d'avoir dans la salle les 3 présidents de vie de l'association, donc Christian Brochet, qui est quelque part dans l'un, Yves Sénatiempo, qui est là, et donc avec Jean-Claude Desoyers, on a une lignée de présidents qui ont tenu un projet qui reste encore original actuellement au niveau national. Donc les 20 ans de Mendès France, on en parlera, puisque ça donnera lieu à la mise en place d'un certain nombre d'opérations et d'actions fin janvier 2009 à l'occasion donc de cet anniversaire. Je voulais aussi remercier la présence de Christian Grandseigne qui représente Monsieur le recteur, puisque si le ministère nous a labellisé, c'est aussi grâce et en raison des relations qu'on a avec l'éducation nationale et tout le système d'enseignement supérieur et de recherche. Sauf qu'on est le seul centre en France qui ayons des relations aussi stables et aussi construites avec le rectorat et l'éducation nationale. Donc merci pour le travail que tu fais avec nous et que tes collègues prédécesseurs ont fait malgré des emplois du temps un peu compliqués. Et puis donc vous remercier tous, on va vous retrouver tout au long du rapport d'activité. Et puis saluer la présence de la présidente de la Société française d'histoire des sciences et des techniques qui est avec nous. Merci d'être présent. Je ne sais pas si vous pourrez rester jusqu'au bout de l'Assemblée générale et puis prendre peut-être parole à un moment ou à un autre, puisque le pôle d'histoire des sciences de l'espace Mendès France a créé, il y a une petite quinzaine d'années, a généré toute une aventure autour du développement durable, autour de la place des sciences de l'homme et de la société dans nos actions. Donc merci pour votre présence, merci d'être là, et je pense qu'on pourra échanger tout à l'heure. Donc comme l'a dit le président Jean-Claude Desoyers, nous sommes en présence à travers cette action de culture scientifique d'une maison qui essaie d'allier science, connaissance et humour de temps en temps. Donc vous avez certainement entendu parler de cet artiste mondialement connu qui s'appelle Eduardo Cac, qui va venir en 2009 ici et qui a fait une série de prestations sur les chaînes françaises de télévision publique, voici peu. Et donc, avec ce petit clin d'œil, on remarquera que la science, dans ses évolutions, permet de se poser la question de la manière dont les scientifiques travaillent avec et pour le vivant. Donc, je vous laisserai, bien sûr, juge de cette image. Donc, la nécessaire culture scientifique, on la défend ici, on la défend dans la lignée de l'esprit et de l'expression de Hubert Curien, Cette phrase qui a pas loin de 30 ans maintenant, elle est encore d'actualité, puisque Hubert Curien nous disait que rien ne pouvait se passer sans un équilibre qui est forcément instable, mais sans un équilibre à rechercher en permanence entre cette notion de culture et cette notion de connaissance, cette notion de culture qui allie la capacité des individus à titre personnel de s'intégrer socialement et professionnellement, mais également avoir à travers cette pratique individuelle une présence au sein d'une démocratie et donc avoir une conscience collective. Donc Hubert Curien, qui est décédé voici quelques années, a toujours à travers sa pensée sur la culture scientifique animé le travail de nos équipes ici, donc allier vulgarisation, connaissance des sciences avec l'exercice de la démocratie au quotidien ici à l'Espace Mondes France. Donc dans les trois grands termes que le discours de Hubert Curien permettait de mettre en évidence, hein, populariser la recherche. Le mot populariser est un terme qui est employé par notre ami Edgar Morin, qui vient compléter la notion de vulgarisation, hein, cette notion d'accès pour tous. L'éducation aux sciences, on le fait en relation avec nos amis de l'éducation nationale, et favoriser le débat public à travers une multitude de débats, de rencontres et autres temps forts qui permettent aux scientifiques de rencontrer nos concitoyens. Alors le dessin que vous avez au-dessus, c'est un dessin qui est issu d'un concours qui a eu lieu l'an dernier avec des jeunes, sur la manière dont ils se représentaient la science et les scientifiques. Donc sans entrer dans les détails, on se rendra compte que tout y est, hein, il y a forcément des blouses blanches, il y a forcément des équations, il y a forcément des barbus, ouais, effectivement. Et puis il y a des choses liées au climat, il y a des éléments qui sont liés à la toxicité, il y a le clonage qui apparaît. Voilà, donc on voit bien que la représentation des sciences est à l'ordre du jour en permanence sur notre travail. Donc un petit mot de notre ami Axel Kahn qui a dit un certain nombre de choses sur l'Espace Mendès France récemment. Ne vous inquiétez pas, il arrive.
L'espace Mendès France et tous les lieux semblables jouent un rôle fondamental dans la culture scientifique. Mais la culture scientifique, ça n'est pas une contre-culture, ça n'est pas une culture parallèle. Ça fait profondément partie de la culture. C'est quoi la culture ? La culture, c'est ce qui fait sens et permet à une société de déterminer à la fois ce qu'il convient de faire, comment elle va se positionner, d'avoir des références afin d'exprimer un libre arbitre, de se retrouver dans des valeurs communes. C'est ce qui permet également à n'importe quel citoyen de se faire son opinion afin de déterminer en toute connaissance de cause ce qu'il convient de dire. On sait bien, on voit bien que sans culture historique, sans culture morale, sans culture politique, on se demande comment il serait possible à une citoyenne, à un citoyen, de déterminer son choix, notamment son choix politique. Mais en réalité, quand on regarde dans la vie politique aujourd'hui, parmi les grandes questions, parmi les plus grandes questions, il y a des questions d'ordre scientifique et technique. L'avenir dépend en réalité beaucoup plus de la solution que l'on apportera aux besoins d'énergie, au contrôle de la croissance, à la lutte contre l'effet de serre, à cette question autour de la culture agricole et de l'utilisation des biotechnologies, les plantes transgéniques ou pas les plantes transgéniques, l'évitement par des mesures épidémiologiques des grandes maladies qui nous menacent. Or, évidemment, dans ces questions-là, il y a des choix à faire, et dans une démocratie, c'est aux citoyens par moment, de dire ce qu'il en pense. Mais là, il y a une ambiguïté. c'est que si le citoyen est incapable de s'approprier les tenants et les aboutissants des choix, les ressorts du choix, alors il n'y a pas de démocratie en ces domaines, c'est-à-dire il n'y a plus de démocratie possible dans un pays qui vit la modernité. La culture scientifique est une partie importante de la culture et une partie essentielle de la culture des pays qui se développent aussi activement, ardemment que le nôtre. Donc c'est tout à fait naturellement qu'il m'apparaît que l'une des missions du scientifique que je suis est de contribuer à ce que le citoyen puisse s'approprier ses connaissances, qu'il va intégrer à sa propre culture, c'est-à-dire qu'il va devenir un élément fondamental de sa citoyenneté. Il y a deux défauts et deux périls, Caribe et Silla en quelque sorte. Le premier est d'une dissociation très claire entre la culture technique et la culture des humanités, comme s'il y avait une hiérarchie entre les deux, comme si la seule vraie culture était celle des lettres, de la peinture, de la musique, mais que dès que l'on s'approchait des connaissances, de la rationalité des sciences, alors cela serait d'un autre domaine, d'une autre essence que l'essence de la culture. Je n'en crois rien. L'autre péril, c'est qu'on remplace la culture scientifique, qui est le moyen pour les citoyens de décider ce qu'ils considèrent comme étant bien dans les domaines de la technologie, par une espèce de promotion de la logique technocratique de nos sociétés. En d'autres termes, aujourd'hui, on a l'impression que de plus en plus de nos gouvernants nous disent « la science et la technique, c'est, pour faire simple et bref et raccourci, c'est le moyen de faire marcher les affaires, d'assurer la compétitivité des États, de l'Europe, que sais-je. » Toute autre dimension de la connaissance disparaîtrait. Or, je vous l'ai dit, il y a une dimension essentielle qui n'est pas de l'ordre de la compétitivité, qui est la démocratie. Il y en a une autre qui est le désir qu'ont les individus de posséder, de maîtriser les moyens de réaliser leurs objectifs. Or, il est sûr que connaître, maîtriser une technique, ce sont des outils remarquables pour parvenir à ses fins. Or, je pense que ces lieux sont des lieux qui vont remettre la soif de la connaissance à sa juste place. Pas simplement comme le bras armé de la technoscience, de l'économie libérale, capitaliste, dont la logique est parfois contestée, mais au cœur d'un besoin et d'un droit des citoyens.
Merci. Bien, donc le témoignage de Axel Kahn en préambule de notre assemblée générale paraissait d'autant plus important que on est à une période charnière au niveau national sur la place de la culture scientifique, à la fois bien sûr dans une diffusion qui relèverait de l'éducation pour tous, de l'éducation populaire, mais également la place de la culture scientifique au sein même des instances académiques, la place des sciences en primaire, la manière dont les sciences peuvent être enseignées en collège, en lycée, etc. Et je crois que c'est un appel qui nous paraît évident. Donc, avant de passer aux activités 2007, simplement rappeler que l'association Loi 1905 que nous sommes donc appuie ses actions sur ce triptyque de mobilisation d'un fort bénévolat à travers des partenariats que vous connaissez tous et basé sur les compétences d'une équipe de professionnels dont les résultats, les travaux et les compétences sont reconnus. La vie statutaire de l'association, bien sûr, est riche, hein, avec son bureau, un conseil d'administration et son assemblée générale qui donne lieu à de nombreux débats. Jean-Claude Desoyers avait rappelé lors de la dernière assemblée générale que de nombreuses commissions ont travaillé l'an dernier à la rénovation du projet et à une mise en perspective pour l'avenir. Nos comités scientifiques continuent bien sûr leur travail au quotidien pour préparer 2009 et 2010, et puis citer aussi également un certain nombre de partenariats importants avec l'École européenne supérieure de l'image, avec un certain nombre de collectivités territoriales sur les territoires régionaux, avec en particulier en ce moment la mise à plat d'un dossier de création d'une maison des sciences à Saintes, en bord de Charente, un dossier qui a été accepté par les élus locaux de la communauté de communes du Saint-Angers et qui fait maintenant l'objet d'une discussion avec le conseil général de Charente-Maritime sur un lieu de 1500 m2, donc que l'espace Mendès France a permis de faire émerger ces derniers mois sur un travail d'ingénierie culturelle. Sur Poitiers, avec des conventions avec les maisons de quartier et puis les fédérations d'éducation populaire. Un travail original aussi avec l'éducation nationale via le CRDP Poitou-Charentes, avec qui nous avons de nombreux travaux et dossiers en cours, et l'ONICEP. Donc bien entendu, tout ça, ça s'inscrit dans le panel opérationnel de l'espace Mendès France. Le label, donc Jean-Claude, je te le rappelle, hein, c'est Science et Culture Innovation. Je ne ferai aucun commentaire sur le caractère extrêmement clair de ce label. Il nous a été imposé par le groupe de travail du ministère de la Recherche. Bon, il va à peu près dire ce qu'il veut dire. Et on sera amené dans les 4 ans qui viennent à mettre en œuvre un certain nombre de choses. Donc le bilan 2007, quelque chose d'assez classique. Hein, on va vous dire quelques mots sur les éléments liés à la programmation à Poitiers, la diffusion de l'action en région Poitou-Charentes, le pôle sciences, innovation et territoire, dont les travaux depuis 2 ans ont permis de nombreuses sorties et de nombreuses réflexions, et enfin travailler sur les éléments liés à nos différents éléments d'édition. Voilà. Donc à Poitiers, au titre de 2007, donc on est sur une jauge d'environ 56 000 personnes, plus ou moins. Donc on a une petite baisse de fréquentation sur Poitiers, et ça fait partie des discussions qu'on a ici depuis 2 ans, qui est liée à l'offre même de ce bâtiment lui-même, qui n'a pas pu renouveler pour des raisons de structure son offre depuis le milieu des années 90, 94, 95. Et la réflexion des commissions en interne a été de préparer une évolution à la fois du projet scientifique et culturel, avec en particulier un certain nombre de thématiques qui ont été mises en évidence lors de nos 2 dernières assemblées générales, mais également en travaillant assez fortement sur le public des petits, et également le travail qui vient d'être commencé ces derniers mois et dernières années autour du public des personnes handicapées. Ensuite, en région, la diffusion est en pleine explosion, ce qui nous donne d'ailleurs de nombreux problèmes en termes de moyens et de logistique, hein, puisque je rappelle qu'au début des années 2000, on devait faire 2 ou 3 000 personnes en diffusion. On est à plus de 40 000, et en 2008, on est parti sur un rythme encore plus important. Donc là, on recueille les fruits d'un travail relationnel et puis d'une reconnaissance et d'une lisibilité de notre établissement. Donc je rappelle rapidement les expositions qui ont débuté et qui se sont achevées lors de l'année, celles qui ont été aussi à cheval sur les 2 exercices 2007-2008. Hein, donc vous voyez que l'éclectisme est toujours au rendez-vous, et c'est une volonté. Les expositions telles qu'elles sont produites via les comités scientifiques permettent également de susciter des vocations et d'envisager de nouveaux partenariats. Donc à titre indicatif, on a eu pas mal de contacts à travers l'exposition liée aux microbes sur un certain nombre de produits qui étaient à l'intérieur de l'exposition pour une itinérance dans d'autres villes. Et autour de « Dis-moi ce que tu manges », il y a une production qui est en cours de finalisation avec le CRDP autour des questions de nutrition. Et également, les structures mêmes de l'exposition nous ont été demandées par plusieurs villes ou plusieurs collègues de France, tout comme l'exposition « Scène de crime », dont vous avez l'affiche derrière. Croyez pas que ça soit prémonitoire. L'exposition qui nous a déjà été demandée par 2 collègues en France. Donc on verra dans quelles conditions, dans les mois qui viennent, on peut faire évoluer au sein de l'espace Mendès France les structures de production pour pouvoir créer les conditions d'une itinérance. Les animations que vous connaissez ici, qui sont très prisés à travers toutes nos animations du mercredi et du dimanche, mais également les semaines de petites vacances scolaires, donc animations scientifiques, donc qui sont en pleine évolution. Hein. Vous voyez, on a commencé en 2003-2004. La présence de l'école de l'ADN, qui au sein de l'espace Mendès France est un plus et nous a donné, s'il en était besoin, une confirmation sur le besoin d'une dimension expérimentale de la présentation des sciences. L'école de l'ADN ayant au sein de l'établissement également une vocation à de la formation pour adultes et un travail en partenariat avec un certain nombre d'associations qui travaillent dans ce secteur-là. Le pôle multimédia de l'espace Mendès France, c'est une des raisons qui feront l'objet de la discussion dans quelques minutes des relations contrastées avec l'État et sa politique actuelle. Donc le multimédia, pour aller vite, hein, qui est un mot un peu valise, un peu fourre-tout, recèle une multitude de volets, un volet d'initiation, un volet de formation, mais également la mise en œuvre de nombreuses créations et de nombreux spectacles. Donc, dont on voit des éléments ici, donc avec un espace culture multimédia qui a été repéré au niveau national, lui aussi, dans le cadre d'un réseau qui est terminé maintenant, mais dont on va voir dans quelles conditions on peut évoluer. Sur les questions de handicap, on a toujours été extrêmement discret, mais extrêmement présent. Donc, autour du pôle d'espace culture multimédia, il y a un énorme travail qui a été fait avec de nombreuses associations, avec une belle réussite en direction de, à la fois des professionnels de ce secteur, mais surtout et principalement des publics de personnes handicapées. Et je crois que là, il y a une voie assez extraordinaire qui est en train de s'ouvrir. Et puis, le beau travail qui est fait autour des films d'animation et de vidéos au sein de locaux qui sont juste à côté de l'espace Mendès France, au local. Le planétarium, qui donc est un outil dont la vraie difficulté est le renouvellement des spectacles et des présentations. Parce que je vous rappelle que ce planétarium, ouvert en 1992, est doté d'une douzaine de spectacles, mais sauf une ou deux pistes qu'on a actuellement, on n'a jamais réussi à renouveler les spectacles, puisqu'il est assez unique en France, et ça pose des problèmes de production et donc de coûts. Mais toujours est-il qu'au niveau fréquentation, grosso modo, c'est un peu plus de 200 séances par an, auxquelles viennent s'adjoindre des séances plutôt de tonalité artistique ou de création. Alors les conférences pour nous ont été pendant une dizaine d'années le moteur de la relation avec nos publics, et la demande des publics a beaucoup évolué à deux niveaux. D'abord, de plus en plus d'associations sur Poitiers se sont mis dans le sillage de l'espace Mendès France pour délocaliser ou décentraliser des conférences dans la ville. Dans la salle, il y a des personnes qui ont pris en main, à travers leur présence dans des maisons de quartier, par exemple, un certain nombre de conférences. Et le deuxième aspect, nos conférences ont été, ces dernières années, davantage ciblées et un peu plus pointues. Ce qui explique la baisse de fréquentation qu'on remarque, et aussi le fait qu'on en a organisé un tout petit peu moins ces derniers temps pour plutôt des raisons de programmation. Toujours est-il qu'autour des thèmes de santé, d'histoire des sciences, d'information scientifique de nos concitoyens, il y a toujours un public qui est, ce que je dirais, un peu légitimement fidèle, et puis des questions de santé, on en a parlé, de développement durable, qui émergent toujours depuis 3 ou 4 ans. L'espace des métiers, donc 781 rendez-vous. L'espace des métiers, donc qui a connu des heures difficiles il y a 2 ou 3 ans et qu'on avait réussi à stabiliser. Là, compte tenu des problèmes financiers auxquels on est confronté, on va être amené à reconfigurer la notion d'espace des métiers. Et j'espère qu'on arrivera à aboutir dans nos négociations avec l'Université de Poitiers et certaines de ses composantes pour que non seulement l'espace des métiers de l'espace Mendès France puisse se poursuivre, mais qu'il puisse être également présent dans le cadre d'un réseau au sein de l'université, de la fac de sciences, pour ne pas la nommer, et peut-être d'autres UFR. Donc ça, ce sont des négociations qui sont en cours. Mutualiser les compétences, travailler avec l'ONICEP sur une nouvelle offre, et puis être présent beaucoup plus sur l'information en direction des filières. Donc le côté pôle de service, Pour l'espace Mendès-France, c'est quelque chose qui est un peu récurrent, qui est assez important, qui nous pose aussi des problèmes de structure d'accueil. Hein. Donc on a de nombreuses demandes de colloques et séminaires, d'événements. Bon, on essaie de rester cohérent avec l'image de la maison et ça fonctionne plutôt pas mal. Donc quand on regarde les choses, on est un centre assez atypique, puisque nos collègues sont plutôt dans des répartitions relativement inverses. Ça veut dire que la dynamique que l'on a créée autour du thème de culture scientifique nous permet de toucher un public individuel, familial et adulte, qui est très différent du fonctionnement des centres de mes collègues. Puisque je regarde par exemple les statistiques de Grenoble, le centre de Grenoble, qui est une ville plus importante qu'ici, c'est 32 000 visiteurs l'an dernier, 27 000 scolaires et 5 000 individuels. Donc on voit qu'ici, on a créé une dynamique un petit peu différente, plutôt dans l'optique science et société ou science et citoyen, tel que l'ont décrit nos amis. Et le côté scolaire se heurte pour nous à une réalité démographique toute simple, hein, c'est que ce centre est implanté au sein d'un département ou d'une région où, en termes démographiques, on est loin des concentrations urbaines de Strasbourg, Bordeaux, Rennes ou Lille. Donc on a certainement à gagner dans l'offre vers les publics scolaires ou centres de loisirs, mais moi ce que je note, c'est toute l'importance de ce public individuel. La diffusion en Poitou-Charentes, j'entrerai pas dans les détails, hein, simplement vous rappeler que nous labellisons un certain nombre d'actions, hein, comme la science se livre, l'image de science, science de l'image. Nous participons à des actions nationales comme la fête de la science ou internationales comme la semaine du cerveau. Et puis nous sommes partenaires, comme par exemple avec le CNRS, de clubs qui fonctionnent bien et dont le travail est reconnu au sein des collèges ou des lycées. Beaucoup d'itinérance. Et puis le travail d'un groupe d'action régionale qui, pendant un an, a mis en place un certain nombre de processus d'interview des acteurs régionaux pour voir comment on pouvait se déployer dans les années à venir. La fête de la science, ça reste une réussite pour nous, qui se confirme, tout comme la science se livre. La réunion de coordination avait lieu ce matin et on a une implication très forte du milieu du livre autour de la science. Donc là, sur les trois dernières années, on voit que l'espace Mendès-France est bien présent sur son territoire régional, avec ou non des opérations labellisées. Et on se rend compte que la notion de label, hein, permet de créer des groupes et des réseaux qui sont importants. Et donc, je crois que l'action régionale de l'espace Mendès-France doit pouvoir se poursuivre. Donc, l'idée du travail sur Sainte, on le comprendra aisément, et également sur Angoulême, à partir d'un espace avec lequel on pourrait avoir des partenariats, c'est aussi pour pouvoir toucher le sud de la région dans une diffusion plus importante. Donc le pôle sciences, innovation et territoire en 2007 a travaillé sur un certain nombre de sujets, participant à travers des discussions à l'amélioration d'une meilleure culture de l'innovation territoriale. On a travaillé sur le déploiement de Mendès-France en région, qui donnerait a priori de bons résultats, les élections ayant eu lieu en mars, les nouveaux élus étant là. On est sur plusieurs villes, plusieurs pays et un voire deux départements avec lesquels nous lancerions des actions de déploiement relativement importantes, surtout pour ce qui sera concernera les Deux-Sèvres. Une exposition qui a été présentée à la Fête de la Science, une exposition sur une prospective autour de la voiture. Un colloque important qui a, avec l'IAT et l'Institut national du développement local sur créativité et territoire, qui est un important succès. Et nos actions internationales qui nous ont permis de poursuivre des relations avec un certain nombre de villes jumelles de Poitiers, mais également, ce que je disais, de pouvoir amplifier le travail de diffusion de l'espace Mendès-France. Et rappeler que l'an dernier, à Saint-Jean-d'Angély, nous avons initié une démarche dont... un des représentants est dans la salle, Alfredo Penavega, qui, à travers son relationnel scientifique avec les réseaux de M. Edgar Morin, nous a permis d'initier la relation avec le monde latino-américain, dont Christina Girardi nous parlera tout à l'heure un petit peu plus longuement. Donc cette année, en 2008, vous l'avez dans votre dossier, ça a lieu à Niort, en septembre 2008 à Niort. Et si vous avez vu le programme, on a quelques-uns des plus grandes personnalités sur le plan mondial qui s'intéresse à ces questions. Et en particulier, on aura la chance d'avoir le représentant du secrétaire général de l'ONU, Ricardo Lagos, qui viendra nous parler d'un certain nombre de choses qui sont en préparation au niveau mondial et dont on a parlé il y a quelques jours. Enfin, l'édition que vous connaissez tous, hein, l'édition de notre catalogue, l'édition bien sûr de l'actualité scientifique Poitou-Charentes, dont le prochain numéro devrait être présenté à la région le 7 juillet prochain. C'est un spécial Québec que Jean-Luc Terradellos est en train de fiévreusement terminer. Je ne sais pas s'il est là, Jean-Luc. Il travaille, pas nous. Voilà, et donc Atlantique, donc voilà les numéros de l'an passé. Et simplement vous dire que cette revue a fait l'objet d'une capitalisation et dans les jours qui viennent, je pense, seront accessibles tous les numéros, tous les contenus de l'actualité sous forme d'une grande encyclopédie culturelle et scientifique à la fois régionale mais aussi beaucoup plus globale avec les grands témoins que nous avons pu interviewer ces 15 dernières années. Et donc ce travail sera accessible sur un site internet. Quatre ouvrages édités dans le cadre de notre maison d'édition Atlantique, donc en marge du colloque sur la créativité territoriale avec Christian Lemaignan. Les cahiers d'odontologie médico-légale dont un des auteurs est dans la salle, Pierre Fronty. Et c'est vrai que finalement, de Toumaille à Abel en passant par l'identification... Tu es partout, est-ce que tu as le temps de t'occuper de tes patients? Oui, c'est bien. Et puis avec nos amis de Louisiane, donc, et en partenariat avec l'Université de Baton Rouge, nous avons édité donc cet ouvrage qui s'appelle Meurtre en Louisiane et qui, d'après ce que j'ai cru comprendre, devrait faire l'objet d'un film de fiction dans peu de temps. Et puis on a participé à la propulsion de notre ami Michel Brunet vers le Collège de France, puisque... On a eu le bonheur d'éditer l'intégralité de ces travaux en un temps record, avec en particulier le travail au sein d'Atlantique de Thierry Pasquier et puis d'Odile Mazeron, qui ont en quelques jours réussi l'exploit de sortir ce petit ouvrage qui a été remis à tous les membres du Collège de France, donc plaçant l'Espace Mendès France et sa maison d'édition au plus haut niveau scientifique, ce qui est plutôt intéressant. Donc, pour finir, l'édition électronique et tout le travail qu'on fait autour du numérique, donc avec un gros travail, bien sûr, en créant des espaces collaboratifs, hein, permettant de mutualiser des connaissances, faisant évoluer le site internet de l'Espace Mendès France, en participant à la création d'un site avec l'Université de Poitiers qui s'appelle Curiositas, sur les cabinets de curiosité, suite à un important colloque et un gros travail fait dans la maison depuis plusieurs années. Donc vous voyez que cette notion d'édition électronique nous permet de rester à la pointe des derniers éléments dont on a tous besoin en termes d'information. Voilà pour le rapport d'activité rapide, donc simplement une synthèse et des publics bien sûr toujours difficiles à toucher, mais avec lesquels on a je pense une bonne relation, une communication qu'on a améliorée depuis pas mal de temps, un important travail au niveau régional, et puis je pense que 2007 a permis de conforter le rôle de l'Espace Mendès France comme opérateur, coordonnateur d'un certain nombre d'opérations, qu'elles soient très locales ou plus internationales, comme l'Université d'été, dont j'ai évoqué rapidement la séance 2007. Monsieur le Président.
Merci. Avant de passer au vote, si vous avez des questions à poser sur ce rapport d'activité. Didier vous a parlé tout à l'heure de la diminution des personnes qui assistaient à nos conférences. Je crois que ce qui est important de noter quand même, c'est que le nombre de conférences n'a pas diminué. Ça reste autour d'une centaine, mais c'est vrai qu'on a des publics qui sont moins nombreux qu'avant. Donc on va falloir qu'on s'attache à ce problème, mais c'est sûr que l'on a de la concurrence dans différents autres sites, des maisons de quartier qui effectivement drainent du monde. Avez-vous des questions à poser avant que nous passions au vote? Bon, alors je pose la question traditionnelle. Qui ne prend pas part au vote? On est tous part, c'est très bien. Qui est contre? Qui s'abstient? Je vous remercie. Et nous allons passer au point suivant. Alors le point suivant, c'est le rapport financier et je vais passer... Attends, Je vais passer la parole d'abord à notre trésorier qui va vous présenter quelque chose d'assez succinct sur le résumé de ce que vous pourrez trouver dans le document qui vous a été distribué. Et ensuite, je repasserai la parole à Didier qui fera des commentaires. Henri.
Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, le rapport financier est quasiment comme les années passées, avec des charges de fonctionnement maîtrisées et des ressources propres toujours élevées. Le compte d'exploitation reste dans les mêmes proportions financières que les 5 et 6 exercices précédents. Les financements publics perçus en 2007 sont équivalents à ceux de 2006, avec des versements équilibrés dans l'année et la poursuite des financements d'investissement par la ville de Poitiers, 75 000 euros. Les principales données financières de 2007, nous avons vu des charges d'exploitation de 2 244 082 euros et des produits d'exploitation de 2 217 274 euros. Le résultat courant, après amortissement et provision, s'établit donc avec un déficit de 26 807 euros. En reprenant les résultats financiers et exceptionnels et les impôts sur les bénéfices, le résultat définitif de l'exercice s'établira à plus 2 340 euros. Au point de vue bilan, le montant des capitaux propres de l'association inscrit en 2007 est en amélioration, moins 99 325 euros contre moins 117 376 euros en 2006. Les charges financières 2007 s'élèvent à 6 336 euros. Pour mémoire, elles s'élevaient à 25 596 euros en 2003, 32 349 euros en 2002 et 32 177 euros en 2001. C'est la conséquence directe du mouvement de capitalisation engagé depuis 2003 et de l'avance sur subvention versée en début d'exercice par la ville de Poitiers. Évidemment, le mode de réception des subventions nous font que nous avons gagné énormément d'ajouts vis-à-vis de la banque. Voilà les résultats. Alors, pour le détail, mais notre directeur va vous en donner si vous voulez, mais vous avez tous les comptes dans le document que nous vous avons remis.
Merci Henri. Donc simplement redire que depuis 4 ans, à quelques milliers d'euros près, les budgets d'exploitation de l'espace Mendès France sont les mêmes. En termes de subventions, on regardera à travers l'évolution des aides publiques qui représente 78% de nos ressources, l'évolution des aides publiques, la manière dont les choses se passent. Donc la ville de Poitiers intervient et nous suit depuis le début de la création de l'association. La région Poitou-Charentes donc nous aide sur trois volets, la fête de la science, l'actualité Poitou-Charentes, mais également la diffusion de la culture scientifique. La région Poitou-Charentes ayant abandonné l'appui au projet Industrie de la connaissance en 2004-2005, ce qui explique la baisse de subventions. Le ministère de la Recherche, donc c'est cette ligne rouge en légère évolution, ce que l'on indiquait tout à l'heure, je ferai un petit commentaire dans quelques minutes. Le ministère de la Culture en bleu va rejoindre bientôt le montant du Conseil général de la Vienne. Voilà, ça j'aurais dû m'en douter. Ça me fait pas rire. Hein. Voilà, donc on voit que effectivement, par rapport à l'évolution des aides publiques, on est sur grosso modo les mêmes aides en cumulé depuis 3 ou 4 ans, et c'est la ville de Poitiers qui a fait la part de différentiel, et sur le reste, c'est le budget d'exploitation de l'espace Mendès France, puisque nos commissariats aux comptes ont remarqué que nos frais de fonctionnement courant avaient baissé de 11% sur les 4 dernières années. Donc il y a d'énormes efforts à la fois de productivité, d'économie, mais également une recherche en interne de nouvelles façons de produire. Mais tout ça a forcément ses limites. Donc au titre de 2008, on verra que les choses sont, posent aussi un certain nombre de questions. Donc, simplement vous dire que les enveloppes financières restent très proches de celles des années précédentes. La seule chose qui a évolué, ce que vous a rappelé Henri il y a quelques minutes, c'est qu'au niveau de la trésorerie, nous avons une trésorerie qui est en meilleur état qu'il y a quelques années, ce qui fait que nous avons pu rééquilibrer un certain nombre de choses en termes de charges et de produits financiers. Du point de vue du bilan lui-même, ce qui nous intéresse beaucoup, c'est le total 1 que vous avez dans la colonne passive. Enfin, je ne vais pas entrer dans les détails, simplement sachez que l'association, et vous avez le tableau dans votre dossier, l'association part d'un résultat en haut de bilan déficitaire en 1992 qui était l'équivalent d'€1,8 million en valeur actualisée. Donc ça veut dire qu'on a rattrapé 1,7 million en l'espace de 15 ans. Donc ça veut dire que si on les a rattrapés, c'est que ce 1,7 million, il a été soit lié à des excédents d'exploitation, puisqu'on a toujours été positif depuis 15 ans, soit à la capitalisation que nous a permis d'augmenter la ville de Poitiers avec 3 années d'affilée des subventions en capital. Donc ça a aidé également à l'aide à la trésorerie de l'espace Mendès France. Pour le reste, on est sur des cycles financiers qui sont extrêmement, extrêmement positifs et ça se poursuit depuis 2 ans. Donc au titre de 2007, simplement la ventilation. Au niveau des frais de personnel, donc la mise à disposition par la ville de Poitiers des personnels représente une somme de 623 000 €. Le personnel associatif en CDI, mais également les nombreux intervenants. Je rappelle que cette année, on a signé un peu plus de 120 contrats de travail, représentent une somme d'un peu plus d'1 million d'euros. Et de nombreux intermittents interviennent dans la maison, en particulier sur tout ce qui est création numérique. Le deuxième morceau important dans la gestion de la boutique, c'est toute la partie frais de structure et de bâtiment, qui représente un montant important. Le bloc le plus important, c'est le bloc activité, action, animation, qui représente environ 630 000 €, l'actualité faisant 228 000 €, et nos amortissements et provisions étant proches de 80 000 €, ce qui est une bonne cote pour nous par rapport également à la trésorerie. Donc je vous rappelle que nous payons la taxe professionnelle et l'impôt sur les sociétés, mais également nous sommes assujettis à la TVA, même si le régime de TVA de l'association est en train de changer. On sera amené à en reparler d'ici la fin de l'année, puisque ça changera beaucoup de choses pour nous au niveau à la fois des subventions et de la récupération de la TVA. Au niveau des ressources, donc on regardera la ligne avec nostalgie de l'État et de la DRAC, puisque on verra qu'en 2009, nous serons à zéro au lieu de 92 900. Donc, on dira un mot tout à l'heure. Au niveau des ressources propres, des produits exceptionnels et partenariats, donc on est sur des taux un peu supérieurs, si on enlève les personnels mis à disposition, un peu supérieurs à 20%, ce qui est un bon taux de gestion dans les centres de culture scientifique de France. Voilà, donc à travers ces éléments, on peut voir que la structure, ce que moi j'appelle le régime de croisière de l'espace Mendès France, est atteint. On est sur une gestion qui est finalement assez bien répartie entre les 4 pôles de développement dont je parlais tout à l'heure.
Merci, monsieur le directeur. Est-ce que vous avez des questions à poser avant que nous passions au vote ?
D'accord. Les subventions de l'État. Oui, donc Benoît Laurent, du représentant de Graines, Poitou-Charentes. Subventions de l'État, à peu près 10% du budget, avec le ministère de la Recherche et Culture. Et puis la ville de Poitiers, personnel mis à disposition compris, c'est 2/3 du budget. Donc tant mieux pour vous. Il y a quand même j'ai envie de le souligner. Je suis pas élu, mais je suis contribuable et je trouve que la ville de Poitiers fait un gros effort financier. Est-ce que vous avez une idée de ce que ça représente par rapport au budget allouées aux associations, par exemple, dans l'enveloppe budgétaire de la mairie. Combien l'espace Manès France a de pourcent du budget alloué aux associations?
C'est aux élus de répondre, hein, c'est pas à moi.
Non, bah c'est simple. Les subventions de la ville de Poitiers versées au secteur culturel, social et éducatif, ça représente un peu plus de 25% du budget de la ville de Poitiers. Quand on inclut tout le social et l'éducatif, on est entre 25 et 26%. Donc à partir de là, ça représente une 50 millions d'euros. Voilà, le montant des subventions tout compris, c'est 50 millions d'euros. Voilà, donc pour ce qui est de Mendès France, la subvention donc d'un million trois, puisqu'elle est d'un million trois TTC au titre de l'exercice 2007, donc représente par rapport à 50 millions 2% et demi. Hein, voilà. Donc indépendamment de ça, simplement ce que je voulais dire, et moi je vais rebondir sur cette intervention. L'espace Mendès France, c'est une volonté politique de la ville de Poitiers qui date d'il y a une trentaine d'années. C'est une volonté politique qui a été rappelée dans cette salle voici quelques semaines par le candidat de l'époque, maintenant maire Alain Claisse, qui était de dire cette ville avec son université, sa recherche, se doit d'appuyer son action sur un lieu où l'échange bénévole associatif permet de toucher un certain nombre de publics, mais permet également de créer les conditions d'un rayonnement de la ville de Poitiers. Ce que vous dites là me renvoie à deux types de réflexions que moi je me fais en tant à la fois que professionnel de la médiation culturelle, mais également impliqué dans des actions politiques depuis assez longtemps. C'est que le service à la population, c'est-à-dire les services publics et les services au public, sont rendus en 2008 à la fois la croisée des chemins et une extraordinaire perspective de développement. La croisée des chemins, parce qu'il y a moins de finances, ça c'est clair, on va être touché comme tout le monde, hein, et l'espace Mendès France n'a jamais considéré qu'une subvention était indue. Une subvention, c'est quelque chose qui ressort d'un partenariat. Donc la croisée des chemins, elle est en ce moment pour tous, pour vous comme pour nous. Deuxième aspect, c'est un enjeu, une perspective positive. Si les associations ne sont pas capables de créer à travers un dialogue conflictuel, une confrontation, mais un dialogue en tout cas qui génère des choses positives dans les années qui viennent, ça sera la victoire des tenants de la marchandisation de l'information, de la marchandisation du bénévolat. Donc ce que je crois, c'est que la question qu'il faut poser, c'est pas l'espace Mendès France, qu'est-ce que c'est trop ou pas assez, c'est l'espace Mendès France, en tant qu'outil, comment est-ce qu'il peut se mettre au service du croisement d'un certain nombre de bonnes volontés, d'un certain nombre de mises en tension sur les problèmes de développement, de mises en tension sur des problèmes culturels, numériques, etc. Donc ce que je crois, c'est que la volonté de la ville de Poitiers, qui a été réaffirmée ces derniers temps autour de l'espace Mendès France, n'empêche pas d'envisager dans les années qui viennent quelque chose qui va relever d'une rénovation ou d'une remise à plat du paysage culturel poitevin, et l'espace Mendès France entend y jouer son rôle, mais entend jouer son rôle avec le capital qui vient d'être mis en œuvre depuis une vingtaine d'années. C'est un capital relationnel, ce sont un certain nombre de compétences au niveau de la médiation, et ce sont des compétences qui sont mises au service de toutes et de tous. Donc cette association, loi 1901, qui relève normalement du droit privé, s'inclut dans cette perspective et dans cette vision, qui est tout à la fois une vision d'élus municipaux, d'élus d'agglomération, mais également d'élus au sein de l'université, qui sont très présents et massivement présents dans nos actions depuis longtemps. Donc moi, je considère que ça soit 2,5% ou 10%, la question qu'il faut se poser, c'est comment est-ce qu'on met ensemble nos forces en présence pour que ça soit bénéfique à tous, et non pas créer les conditions d'un cloisonnement ou d'une confrontation, sans éviter bien sûr le débat. Daniel, tu voulais...
Je crois qu'il ne faut pas comparer les subventions et le budget de l'espace Mendès France au budget d'association, ça n'a rien de comparable. Un petit chiffre quand même, hein. Tu l'as dit discrètement, mais il faut que le monde se rende compte, c'est qu'en 3 ans, il y a eu un déficit de plus de 10 millions de francs, 1,8 millions d'euros, qui a été rattrapé par le nouveau directeur depuis 1992 et tous les divers présidents. Et le rayonnement de l'espace Mendès France se fait sentir, je dirais, non seulement au niveau local, peut-être pas suffisamment, mais au niveau international. La ville de Montpellier, pendant un siècle et quelques, a subventionné son université. Et un jour, ça a porté ses fruits. Si aujourd'hui l'État se désengage, eh bien, c'est important qu'une collectivité qui est près de ses sous, que ce soit l'ancien maire ou le nouveau, eh bien, met le paquet parce que c'est important pour le rayonnement culturel de Poitiers, c'est fondamental. Si on voulait comparer les budgets, je n'ai pas les chiffres précis, mais nos collègues lui vont le dire, il faudrait comparer au CNR, à l'École de l'Image, au Musée Sainte-Croix ou autre. Et il n'y a pas de gâchis de fonds publics. Au contraire, il y a un investissement. Un jour ou l'autre, cet investissement-là, dans le domaine de la culture scientifique, eh bien, portera ses fruits. Et ça sera la gloire des collectivités et surtout de la ville de Poitiers d'avoir peut-être ramé, peut-être pas dans le bon sens. L'argent qui est mis là est non seulement utile, chaque fois je cite l'actualité, et je crois qu'on a déjà tous ces deux mots lors d'une des réunions, le rayonnement de Poitiers, que ce soit au Chili, que ce soit au Québec ou ailleurs, ça passe par l'espace Mendès France. Bon, peut-être que l'État se rendra compte de cela, mais il faut continuer. Il n'y a que 20 ans, hein, Montpellier est rentré, récupérer ses billes au bout de plus d'un siècle. Continuons et comparons pas des budgets qui ne sont pas comparables. L'argent qui est mis là n'est pas retiré au monde associatif.
Est-ce qu'il y a d'autres interrogations, réactions, etc. Qu'il n'y ait pas de malaise par rapport à ce genre de choses. Simplement, je voulais vous dire qu'au niveau national, voire un peu plus, je suis amené à faire des interventions sur la notion de médiation. Il n'y a pas très longtemps, j'étais aux entretiens ubercuriens à Liège. Hein, on était une vingtaine de pays européens représentés. Moi, j'ai été frappé de la manière dont Marie-Christine Blandin, l'ancienne présidente de la région Nord-Pas-de-Calais, mais également le président de l'Université de Liège, présentait l'espace Pierre Mendès France, centre de culture scientifique. J'étais frappé, pourquoi ? Parce que je me disais que ces institutionnels, ces politiques, avaient une vision de la capacité ou du potentiel de cette maison qui était peut-être plus juste que celle de la proximité. Et deuxième aspect, c'est dans les débats tels qu'ils ont eu lieu, on se rend compte que on fonctionne tous encore de manière extrêmement cloisonnée. Il y a les gens de l'environnement qui sont dans un coin, il y a les gens du handicap qui sont dans un coin, les gens du numérique dans un autre, les gens de la science, les gens de la technique, et qu'il y a un effort énorme qui est presque vital de relier tout ce petit monde. Donc le propos de la maison est aussi de créer les conditions de cette mise en relation. Et c'est vrai que quand Daniel Laumont rappelle qu'il faut du temps, c'est vrai qu'il y a une inscription dans le temps qui se joue sur une génération. Et donc la maison Mendès France, quand elle prépare ses programmations, je pense que beaucoup dans la salle pourront le dire, n'a jamais oublié d'inviter, les gens ne viennent pas, d'inviter toutes les composantes de la société locale à participer à telle ou telle manifestation. Je pense qu'on n'a pas loupé grand-chose depuis 15 ans dans la palette et dans la diversité de ce qu'on a mis en œuvre. Alors, si le monde associatif de Poitiers s'interroge sur la manière dont la ville répartit ses subventions, je pense qu'il faut qu'il faut que vous ayez un débat, mais ce débat, il doit avoir lieu de manière complètement éclairée, en prenant en compte l'intégralité de la part que la ville donne à travers ses subventions, l'intégralité de la part que la ville dédie à sa politique en délégation. Parce que je pense que c'est l'honneur de la ville de Poitiers de faire partie de ces rares grandes villes ou moyennes grandes villes qui est autant déléguée à des structures complémentaires qui ne sont pas un COD, qui ne sont pas des porteurs d'eau, qui sont des gens qui travaillent en autonomie mais en relation en même temps. Donc il faut qu'on ait un débat ensemble sur la manière dont tout s'intègre dans une programmation qui soit collective et qui s'inscrive encore une fois dans un paysage qui va complètement changer dans les années qui viennent. Et donc nous, on fera partie des structures qui sortiront de la vision institutionnelle des choses pour rentrer dans une vision en réseau où il n'y a pas de leader, hein, y a des gens qui travaillent le collectif au service d'une ville ou d'une agglomération.
Merci. Cette discussion était fort intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Bon, ben nous allons passer au vote. Qui ne prend pas part au vote ? Qui s'abstient ? Qui vote contre ? Je vous remercie. Alors maintenant, je... C'est toi ou...
Alors, le rapport de la commissaire aux comptes.
Bon, je vais donc vous lire le rapport de madame le commissaire aux comptes, madame Pierre Morisset, qui n'est pas là cette fois-ci. Habituellement, elle est toujours là à nos assemblées générales. Nous avons effectué notre audit selon les normes professionnelles applicables en France. Ces normes requièrent la mise en œuvre des diligences permettant d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels ne comportent pas d'anomalies significatives. Un audit consiste à examiner par sondage les éléments probants justifiant les données contenues dans ces comptes. Il consiste également à apprécier les principes comptables suivis et les estimations significatives retenues pour l'arrêter des comptes et apprécier leur présentation d'ensemble. Nous estimons que nos contrôles fournissent une base raisonnable à l'opinion exprimée ci-après. Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et des principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de l'association à la fin de cet exercice. Voilà le rapport de Madame Morisset, commissaire aux comptes pour notre association.
Voilà. Merci. Nous allons donc passer au troisième point, qui est la prospective, c'est-à-dire 2008 et les années qui suivent. Mais je vous avais annoncé au début de cette réunion que je vous lirai la lettre que j'ai reçue du DRRT. La voici. À mesdames et messieurs les membres du conseil d'administration de l'espace Mendès France, en tant que délégué représentant le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche en région, j'étais profondément attristé par l'article paru dans la Nouvelle République du 25 juin 2008 qui est intitulé « Poitiers, point noir, espace Mendès France ». L'État ampute le budget de 10%. Je pense que cet article est mensonger, ou au moins mensonger par omission. En effet, le service culture scientifique du ministère de la Recherche, relayé en région par le DRRT, travaille à aider et à valoriser l'espace Mendès France dans la mesure de ses moyens très contraints actuellement. Ainsi, il était prévu un effort financier en 2008 avec une dotation du ministère de la Recherche de 190 000 euros, représentant une augmentation de 11,7% par rapport à 2007. De plus, le processus de labellisation CCSTI, qui a eu une issue tout à fait positive en 2007, a été l'occasion d'un travail riche et conséquent entre le ministère de la Recherche, le DRRT et l'Espace Mendès France. À cette occasion, et conscient de l'appui limité de l'État, je tiens à remercier les collectivités locales fortement impliquées dans le soutien financier de ce Centre de culture scientifique régional. Il est très dommageable qu'un travail aussi important soit balayé par des critiques parcellaires mises sur la place publique. Aussi, il me paraît nécessaire qu'un droit de réponse émanant de l'EMF permette de recaler les propos de cet article de presse. Au vu de la nouvelle publication, le ministère de la Recherche et la DRT donneront suite.
C'est beau.
Ah, moi, je vais vous faire un commentaire par rapport à ça. D'abord, la presse en France est encore libre d'écrire, d'interpréter, justement ou injustement, les choses. Donc, moi, simplement, ce que je voulais vous dire, c'est que l'article en question, qui finalement prouve que cette maison fait vendre un petit peu de papier, est tombé un peu dans le sensationnalisme. Où la notion de ministère de la Culture, puisqu'il était vraiment question du ministère de la Culture, est devenue l'État. Donc c'est toujours mieux en ce moment de dire l'État lâche tout, l'État arrête, etc. etc. Donc ça, c'est déjà un premier point. C'est une façon de dire que, du point de vue du journaliste, que ce soit la culture, la recherche, le social, le travail, c'est l'État. Donc c'est une politique globale. Deuxième point par rapport à ce qui est dit, c'est interprétable, mais pas mensonger. Interprétable parce qu'il y a un chiffre qui a été donné sur lequel le délégué régional à la recherche n'a pas été d'accord, c'est celui de 10%, amputation de 10% du budget de l'espace Mendès France. Donc je vous ai mis les chiffres en deux secondes, on va faire le travail ensemble, sans calculer juste de tête, ça sera très simple. Par contre, c'est pas mensonger, le ministère de la Culture via la DRAC donné jusqu'à preuve du contraire 87 500 euros à l'espace Mendès France. Sur les 87 500 euros, 57 500 étaient dédiés à la diffusion de la culture scientifique en milieu rural, c'est zéro, et 30 000 étaient dédiés à l'espace culture multimédia, qui était un label que nous avons obtenu sur la base d'un certain nombre de critères voici quelques années, c'était 30 000 euros, et c'est 25 000. Les 25 000 sont inscrits ici. Le ministère de la Recherche, c'est 190 000 euros, plus une somme qui correspond à la fête de la science. Donc, ce qui était écrit dans la presse, c'est on passe de 87 500 euros à zéro, parce qu'à l'époque, quand l'article a été écrit, nous ne savions pas que nous aurions éventuellement 25 000 euros. Deuxième aspect par rapport à ces chiffres, les 10%, donc la perte budgétaire, correspondent à un calcul qui est fait sur le budget d'action et de dépenses subventionnables par l'État, puisque l'État ne nous subventionne que des opérations hors salaire, hors frais de structure et hors frais de bâtiment. Donc le budget sur lequel le calcul peut être fait, c'est un budget qui avoisine les 620 ou 630 000 euros. Donc vous faites le calcul comme moi, si vous enlevez 62 000 euros de 630 000 euros, on est peu ou prou, proche de... Voilà. Si on le rapporte à 2 millions 2 hors taxes ou à 2 millions 9, effectivement, on est à 2 ou 3%. Alors, il faut pas ergoter sur les chiffres. Simplement, ce que je voulais dire, ce que j'ai déjà dit au conseil d'administration, c'est que on a toujours travaillé en bonne intelligence avec la structure qui est la délégation régionale à la recherche et à la technologie. On a toujours travaillé en bonne relation avec la délégation ou la direction régionale aux affaires culturelles. Quand je dis en bonne intelligence, c'est en bonne relation avec les fonctionnaires de l'État qui sont présents en région et qui actuellement ont à gérer une raréfaction de crédits, des coupes sombres et un certain nombre d'éléments qui reviennent sur 20 ou 25 ans de travail. Donc ce n'est pas une histoire de personne, c'est simplement une histoire de constat sur une politique qui amène à un certain nombre de coupes budgétaires. J'ai déjà dit à cette tribune qu'effectivement la DRRT, le ministère de la Recherche, était en train d'augmenter notre budget. Donc les 11,7% représentent 17 000 euros. Je rappelle que la Cité des Sciences a touché 35 millions d'euros de plus cette année. C'est tout, j'en dis pas plus. Hein, donc, et qu'un citoyen qui pousse les portes de Poitiers coûte 3,90 euros à l'État et il coûte 47 euros à l'État quand il pousse les portes de la Cité des Sciences et de l'Industrie à Paris. J'en dis pas plus. J'ai déjà été amené à le dire au niveau national. Ça m'a valu quelques problèmes avec les ministères, les médias ou le directeur de la Cité des Sciences de l'époque. Moi, je vous le dis à la tribune parce que ça permet de le mettre au compte-rendu. Ce n'est pas un problème de personne. Ça n'est pas un problème de bonne relation avec des services de l'État qui, visiblement, ont de vraies difficultés à assurer une présence en région. Ce sont simplement des constats qui font qu'il y a une véritable politique qui tend à désengager l'État de tout, surtout, et à ensuite laisser les acteurs associatifs en dialogue avec leurs collectivités territoriales de référence qui ont leurs contraintes, etc. etc. Donc, simplement, moi, ce que je voulais dire, et je pense qu'il faut que ça soit au compte-rendu, on n'a pas à imposer à la presse un démenti en disant ce que vous avez dit lundi, c'est faux. On a simplement à dire ou à redire à la presse ce qu'on a fait tout à l'heure avec Jean-Claude Desoyer, les éléments chiffrés qui correspondent aux réalités. Et puis je finirai en disant qu'on va être le 1er juillet, on a mis 25 000 euros sur l'État DRAC. Moi, je n'ai eu que des coups de fil. On n'a jamais su que les 87 500 euros nous étaient enlevés. On n'a jamais su, hein, c'est toujours à l'oral, jamais décrit. Donc on voit bien quand même qu'il y a une façon de traiter les choses ou les dossiers qui sont à double vitesse. C'est-à-dire que les institutions, il ne faudrait rien leur dire, et les structures comme les nôtres, il faudrait qu'elles subissent. Donc là, je pense qu'il y a un moment où il faut remettre un peu les choses en perspective. Moi, je trouve dommage que le DRRT ne soit pas là ce soir, parce que ça aurait donné lieu à un joli débat, mais qui n'était pas un débat interpersonnel, qui était un débat politique, et sur la place des fonctionnaires régionaux à un moment où l'État enlève les crédits et comment ils fonctionnent, c'est tout. Voilà, donc je voulais simplement vous dire que nous, on a fait une mise au point, qui est une mise au point de gestion et de mise en perspective par rapport à notre structure à la presse. Elle en fera ce qu'elle en voudra, parce qu'elle est libre d'écrire ce qu'elle veut. On sera d'accord, pas d'accord. Vous avez tous été interviewés à un moment ou à un autre et vous avez tous râlé parce que ça et ça n'avait pas été dit, etc. En attendant, c'est un exercice de démocratie qui est périlleux. Alors, le risque, si le dialogue s'envenime,
c'est que notre DRRT dise l'augmentation de 17 000 euros prévue, vous allez la chercher ailleurs. Gentil. Bah, on ira la chercher ailleurs. Hein. Je veux dire, on n'ira pas à Canossa pour ça. Simplement, nous, on a toujours fait notre, au niveau de la structure, le travail de manière correcte. Je pense qu'il y a un véritable stress, une véritable tension dans les services de l'État en région. Et donc, simplement, ce que je crois, c'est que on va écrire à notre DRRT préféré pour lui redire un petit peu ses éléments. Et puis essayer de calmer le jeu par rapport à tout ça. En attendant, plus 17 000 euros, c'est-à-dire c'est la première augmentation que nous avons depuis 8 ou 9 ans, sachant que l'État nous donne 190 000 euros en 2008. En 1991, l'État, enfin, le ministère de la Recherche donnait l'équivalent de 311 000 euros, hein, voilà, en valeur actualisée. Donc voilà, c'est QFD. Hein. Donc à partir de là, on remet en évidence ce genre de choses. Hein. Ce sont les collectivités locales, villes et régions, qui depuis une dizaine d'années ont permis à cette maison de créer les conditions d'un développement équilibré et harmonieux.
Merci. J'ajouterais qu'effectivement, le DRRT a fait vraiment tout ce qu'il pouvait. On a travaillé beaucoup avec lui. Il a fait tout ce qu'il pouvait pour essayer de maintenir, parce que ce n'est pas facile pour lui non plus, hein, il est un petit peu entre l'État et nous, pour nous maintenir à un niveau. Et je ne l'ai pas revu, je ne l'ai même pas eu au téléphone, mais je vais le contacter prochainement. Voilà. Avez-vous des questions à poser? Avez-vous des observations à faire? Oui, Yves?
Alors, je voudrais simplement dire ce que j'ai dit en privé il y a deux jours, c'est qu'il faut se préparer à vivre sans ressources venant de l'État. Complètement.
En dehors de cette remarque pessimiste, mais qui, je crains, soit vraie, comment, oui. Est-ce qu'il y a d'autres remarques à faire avant d'approcher les programmes, les orientations pour les années à venir? Alors, vous avez un logo ici, plutôt un paquet de logos, qui vous donne la liste, j'espère qu'elle est exhaustive, de tous les organismes avec lesquels on travaille. On aurait pu ne pas mettre les noms, puis faire un petit concours pour reconnaître. Vous voyez qu'il y a beaucoup de gens avec qui nous aident, qui nous assistent dans notre travail quotidien. Pas de questions, donc on va passer aux orientations et je repasse à nouveau la parole à Didier.
Rapidement, parce qu'on l'a déjà dit dans les éléments qui ont été indiqués tout à l'heure. Hein, donc les orientations, c'est pour faire évoluer l'offre, il faut créer les conditions d'une réhabilitation de ce bâtiment qui, 20 ans après, a pris quelques éléments en termes de fonction qui posent problème, en particulier pour l'accessibilité handicap. Par rapport au développement de tout ce qui est action numérique, c'est une discussion que nous on souhaite engager à la rentrée de septembre avec les élus de la ville et de l'agglomération pour voir dans quelle mesure ce qui vient de se passer ici peut s'intégrer à un plan d'action et de diffusion au niveau de l'agglomération, donc savoir comment de telles compétences, de tels réseaux peuvent être mis à disposition. On est en train de travailler avec un certain nombre de bénévoles de l'association à une évolution de la communication, comment communiquer mieux, plus, avec moins de moyens. Le plan d'action régional, j'en ai parlé tout à l'heure, ça se traduira par des signatures de conventions et l'implantation de l'espace Mendès France dans un certain nombre de lieux permanents, soit des lieux dédiés, comme la Maison des Sciences de Saintes, soit des lieux partenaires, comme par exemple en Pays-Mélois sur la réhabilitation d'un bâtiment qui va être dédié à l'insertion et à la formation autour des questions de développement durable, en particulier avec le CNFPT. Donc, et l'accompagnement de projets en région, on a un certain nombre de collectivités qui nous ont demandé de leur donner un petit coup de pouce sur la création d'objets ou d'outils de médiation. J'ai parlé des 20 ans de l'espace Mendès France, je pense que ça sera l'occasion de faire un point à la fois sur la culture scientifique, de faire un point sur le passé, mais surtout de parler d'avenir, parce que c'est ce qui paraît le plus important. Donc on passera sûrement une semaine collectivement sur Poitiers pour fêter la science, l'université et la recherche, et puis les actions internationales que nous menons depuis quelques temps. Et ça permet de passer la parole à Christina Girardi, Madame le maire.
Bonsoir. Et je croyais que j'allais parler à 23h. Et bon, je suis Christina Girardi, je suis maire depuis 13 ans, presque 14 ans de Cerro Navia, qui est une. Bon, il y a le Chili là. Hein, la zone de Santiago qui est à peu près au centre du pays. Et Cerro Navia est une des 52 communes de la région de Santiago. Santiago fait à peu près 5,5 millions d'habitants. Hein, et Cerro Navia est une des 52 communes et elle a 160 000 habitants. Hein, et on va voir un petit, des images d'il y a 14 ans, hein, de ce qu'on était, de ce qu'on a fait et de ce qu'on veut faire. Hein, et en très résumé. Et je vais expliquer ce qu'il y a dans les images, non ? Pour que ça soit plus animé. Hein ? Je sais pas. Bon, ça c'est la commune. Il y a 14 ans, il n'y avait pas de pavimentation. C'est une commune qui s'est formée à partir des prises des terrains lors des années 60-70, avec des campements et surtout les maisons, c'est des autoconstructions. Quand j'ai pris le premier mandat en 95, c'était ça le panorama. Il n'y avait pas de paviment, il n'y avait pas de système sanitaire. Et depuis 30 ans, la commune pratiquement n'avait pas eu d'investissement de la part de l'État. Hein, donc on avait beaucoup de logements très très précaires. Et ça, c'était un des plus grands campements qu'on avait à la commune. Et campamento, je ne sais pas si ça se traduit comme campement, mais c'est les bidonvilles. On a eu depuis ce temps-là 24 établissements d'éducation. Quand la commune a commencé, l'éducation se faisait dans des bus, et petit à petit, il y a eu des écoles d'emergencia, d'urgence, et il y a quelques années, on a pu, l'État a commencé un système, il y a 8 ans à peu près, un système de renouvellement des établissements scolaires. Hein. Donc, les 24 établissements, on a déjà 20 qui sont presque tout neufs. Hein, et la commune, elle a commencé à partir de cette époque. Ça, c'est le bord de la rivière du Rio Mapocho. Et à partir, c'est un peu coupé, hein, parce que c'est tous les ministres qui sont allés pendant ces 14 ans à Cerro Navia pour obtenir des projets, hein, parce que la commune a un budget de 9 millions d'euros hein, par an, desquels 1 million... 2 millions sont perçus des taxes de la commune et le reste vient de l'État, d'un fonds commun municipal. Il n'y a pas de budget apporté par l'État aux communes. Hein. C'est seulement ce budget-là pour administrer la commune. Ça, c'est les places et les pavillons qu'on a mis en place pendant l'illumination. On a dû pratiquement tout à refaire à la commune pendant ces 14 années. Hein. Ce qui est important de dire, c'est que ce fonds commun municipal qui fait une redistribution de la richesse des communes est formé par le pourcentage qu'on apporte toutes les communes pour conformer ce fonds commun municipal. Et ce qu'on a, nous, après la distribution, c'est un budget qui est, par exemple, 14 fois plus bas que celui d'une des communes les plus riches. Hein. Et ce n'est pas une situation qui est seulement particulière de Cerro Navia. Il y a seulement 5 communes au Chili qui font le budget de toutes les communes, le 60% de tous les revenus perçus par les communes de tout le Chili. Hein. Ça, c'est un peu où on est arrivé, là, en paviement, en illumination. On a fait des avances qui c'est très lent. C'est très lent parce qu'on a un budget pour investir de 400 000 euros par an. Et donc, c'est très lent. Là, et comme il n'y a pas d'apport de la part de l'État, on doit présenter des projets, là, et un de ces projets, c'est un qui on a présenté il y a 2 ans à la région, qui est l'Université du Travailleur, et qui on l'a présenté il y a 5 ans, et l'année dernière, ils l'ont approuvé, et on commencera à le construire maintenant en 2008, à partir du second semestre. C'est un peu une vision de la commune. C'est ça l'Université du Travailleur, hein, qu'on va construire. Et c'est un centre qui est au plein centre de la commune, hein, et qui est l'endroit le plus loin que je crois qu'on peut arriver et que la commune s'est tracée pour arriver après 14 ans de gestion municipale. Hein. Et c'est un projet très, très ambitieux, hein, et c'est un des plus grands désirs de la commune d'aboutir à réussir ce projet-là. Et je crois que c'est là que terminent les images de la commune. Là, on voit que ça, c'est les parts qu'on a réussi à faire. Quand on est parti, on avait 0,7 mètres carrés par habitant. Hein, avec tout ce qu'on a présenté comme projet, hein, on a en l'actualité 3 mètres carrés par habitant en ce qui est superficie, surface de place et de parc. Mais il nous faut encore beaucoup pour arriver à les 7 et 8 mètres carrés qui c'est la recommandation de la OMS. En tant que parc et des aires vertes par habitant. Une chose qui est très importante aussi, c'est que les municipalités au Chili, à partir de 81, administrent et la santé primaire, l'éducation. Hein, et l'État apporte 1 euro et demi par habitant chaque mois, hein, pour la santé, et 38 euros par mois par élève pour faire l'éducation. Ces chiffres-là, c'est important parce que ça nous permet de payer le 85% des salaires et le reste, c'est la municipalité qui doit concourir pour apporter le financement qui manque, et ça fait que au Chili, les 354 communes qu'il y a ont tous un budget différent en éducation, hein, et tous des programmes, si bien il y a un programme national, c'est très, très difficile à avoir une seule éducation publique dans le pays. Hein, et c'est une des crises importantes maintenant du Chili et du gouvernement de la concertation et de Bachelet en particulier, parce que c'est à ce moment-là que l'éducation est complètement en crise, hein, et que les étudiants sont dans la rue et ils sont en train de se battre pour avoir une éducation publique au Chili. Bon, je vais profiter pour donner quelques chiffres. Je crois que c'est très important. À Cerro Navia, j'ai dit qu'il y a 160 000 habitants. On a 17 000 habitants par kilomètre carré. C'est une commune très, très dense parce qu'il n'y a pas de construction en hauteur. Donc, c'est très répandu. C'est très étendu et c'est très dense. Hein. Et autre chiffre qui est important, on a 12 000 familles qui n'ont pas de logement, donc elles vivent avoisinées là, dans d'autres maisons, et on se trouve qu'il y a dans chaque maison 2, 3, jusqu'à 10 familles par terrain, et ce sont des terrains de 9 par 18. Là. C'est des situations très précaires au niveau de logement, toujours, là, et c'est très difficile, surtout quand on doit voir des problèmes de assinassement. Hein. L'autre chiffre important, c'est qu'on a 7,9 de moyenne de scolarité en année, hein, 7,9. Si bien l'éducation au Chili, c'est obligatoire les 12 années, hein, notre moyenne, c'est 7,9 dans les 15, âgés de 15 ans et plus. Hein. Le 2% a une formation technique ou supérieure, hein, seulement dans la commune. Hein, c'est une commune dont les personnes sont très peu scolarisées et très peu qualifiées. Hein. Et le revenu moyen de la commune par famille, c'est... Vous allez m'excuser, mais... En euros, ce n'est pas très facile. Et c'est 400, la moyenne. Si bien le SMIG au Chili, c'est 200 euros par famille, hein, le salaire minimum. La moyenne des revenus des familles de la commune, c'est 400 euros. Hein. Et cette situation-là est très déterminante dans ce revenu dans la commune. Ce qui est important aussi, qu'on a 50% de chômage de jeunes, hein, et on a 20% de chômage comme moyenne dans la commune. Hein. Et ces chiffres-là et la situation actuelle de la politique publique en éducation dans le Chili vont de cette façon justifier pourquoi un projet comme l'Université des travailleurs est très important pour une commune comme Cerro Navia. Et la politique en éducation, bon, il n'y a pas d'éducation publique proprement telle au Chili, hein, parce qu'il y a 350 communes qui font une éducation par rapport à ses propres ressources. Donc, les différences entre les communes riches et les communes pauvres sont énormes au niveau d'éducation. Hein, mais aussi, il y a un vide très important dans la formation des personnes, non seulement par la qualité, la mauvaise qualité de l'éducation, mais par exemple l'éducation technique n'a pas été partie de l'éducation des politiques de l'État depuis très longtemps. Hein. Donc les gens de ma commune, les jeunes ou les adultes qui veulent faire des études ou avoir une formation au-delà du lycée, ils doivent forcément avoir de l'argent, hein, ou avoir une bourse, et les bourses, il y a 2 ans, c'était sûrement pour la formation universitaire. Hein. Donc c'est déjà difficile que nos jeunes arrivent à l'université parce que la formation est très mauvaise au début, hein, dans la scolarité, et l'État n'apporte pas de bourse s'il arrive dans le niveau technique, et seulement pour le niveau universitaire. Hein. Les bourses, c'est pour les unités publiques, entre guillemets, là, et les universités privées. Là. Et c'est surtout les gens de l'élite qui accèdent à l'université au Chili. Là. Il y a 2 ans, ce contexte a un peu varié parce que l'État, le ministère d'Éducation, a décidé de donner des bourses aussi pour le niveau technique. Tout le niveau technique est privé, hein, et c'est payé. Hein. Il n'y a pas de formation gratuite et c'est très très cher de faire aussi une formation, d'avoir une formation technique. Donc c'est dans ce contexte-là que nous, on est en train de proposer le projet de l'Université du Travailleur à Cerro Navia. Il y a une information, on va voir une image finale, mais il y a des concepts que c'est, c'est important. Les municipalités, en administrant l'éducation, on administre l'école primaire, l'école secondaire. Ça, ça fait 12 ans hein, en total. À Cerro Navia, on a 22 établissements primaires et on a 2 secondaires. Hein. Donc, on a un déficit très important de formation au niveau secondaire. Et il y a une autre figure qui peut se convertir en une opportunité pour la commune, c'est c'est le CEIA. C'est la seule instance administrée par la commune de formation d'adultes. Ça, c'est jeunes adultes qui ont décroché de l'éducation formelle hein, et que il a une mission de mise à niveau de l'éducation et le développement, la formation d'un métier. Hein. Et c'est ça notre base de l'Université des Travailleurs. On va partir de là, ça va être notre compétence. Et si la salle d'avant. Une chose qui est importante, à part les chiffres que j'ai donnés, ça c'est la région, toute la région de Santiago. Ici il y a l'aéroport, là-haut, et la commune est là. Et ce qui est important, c'est que il y a toute ça, c'est une grande autoroute comme le périphérique, je suppose, à Paris, qui fait tout le tour de la ville. Donc nous, on a la frontière juste du périphérique. Il y a une autoroute qui est la verte qui part en dessus, qui passe dans le bord de la commune. Là, c'est le Rio Mapocho, la rivière. Si bien Alfredo me dit que ce n'est pas une rivière, et c'est un fleuve. Moi, je dis que c'est toujours une rivière. Hein. Et le Rio Mapocho hein, qui vient des hauts quartiers, cette zone, tout le nord-orient de Santiago, c'est les hauts quartiers. Hein. C'est les communes les plus riches de tout le pays. Hein. Il y a 5 communes hein, qui sont les plus riches du pays et qui font, je vous ai dit tout à l'heure, le 60% de tout le budget de toutes les communes du pays. Et elles sont dans cette zone de Santiago. Hein. À partir de 5 millions, 2 millions de pesos, je ne sais pas comment. Oui. Bon, de toute façon, le Chili, c'est dans les 10 pays, hein, on est dans les rankings lamentables de la distribution de la richesse, c'est dans les 10 pays qui ont la plus mauvaise distribution entre riches et pauvres. Hein, ça, déjà être dans les 10 pays, c'est... Et cette réalité revenus par famille et qu'on voit dans la région, on le voit aussi au niveau des communes. Il y a les communes qui sont riches et qui ont des riches et vont rester riches. Et les communes qui sont pauvres ont des pauvres et c'est très difficile à surmonter. La commune de Cerro Navia n'a pas d'industrie, n'a pas d'entreprise. Et on a une entreprise, pour être juste. C'est une commune dortoir et c'est une commune où il y a beaucoup de petits commerces. On a à peu près 2000 patentes de personnes qui font le marché dans la rue. Beaucoup de botillerias, de vente. On a 400 patentes de vente d'alcool. Et c'est une commune qui, malgré le développement et le croissement du pays, continue à être dans la marginalité et dans la pauvreté. Cette rue-là, cette autoroute verte qui passe vient des quartiers riches et relie directement avec l'aéroport. Et ici, à partir de là, on va à Valparaiso. Donc c'est tout. Si la commune a une position très stratégique dans le pôle ouest, et c'est ce qu'on veut aussi utiliser pour mettre et pour placer là l'université du travailleur qui prétend rendre service pas seulement à la commune mais dans toute la zone ouest de la région. Et il ne faut pas oublier que toutes les autoroutes qui passent par cette grande autoroute, il faut payer pour circuler. Donc les gens de ma commune, si bien l'autoroute, vous voyez, elle rentre dans ma commune, je n'ai pas d'accès parce que les gens ne peuvent pas payer. C'est une... Et la commune de Cerro Navia, on peut rentrer, mais on ne peut pas... J'aimerais bien avoir un bâton plus long. Mais vous voyez, là, c'est des murs. On ne peut pas arriver. On rentre dans la commune, mais on ne peut pas sortir. Donc, c'est une commune qui est bloquée et qui est partie aussi des handicaps qu'il faut surmonter, j'espère que cette année. Pouvoir profiter de cet emplacement qui est privilégié pour la commune de Cerro Navia, mais qu'on n'en peut pas profiter encore. Et disant ça, et la dernière, non ça... Bien. L'emplacement qu'on veut du centre de l'université de travailleurs, elle est entourée là, dans le centre de la commune. Il faut noter que la mairie est là, mais elle n'est pas dans le centre de la commune. Et c'est historiquement, cette commune était une des plus combatives lors de la dictature. Et comme les municipalités à cette époque-là étaient de droite, ou au moins proche à la dictature, les fonctionnaires, pour mieux échapper de la commune, et c'était vraiment très dur de vivre là-dedans. Pinochet, c'est la seule commune où il n'a pas réussi à entrer. Donc c'est un capital symbolique très important pour Cerro Navia. Mais la mairie est de ce côté. Et on veut placer... l'université de travailleurs au centre pour initier un centre civique qui doit se développer dans les prochaines années. Et la suivante. Bon. La structure du CUA, c'est la structure de l'université du travailleur, c'est en base d'un réseau. Ce n'est pas université de travailleurs, c'est réseau, université de travailleurs. Ça, c'est notre centre d'éducation intégrée d'adultes que je vous disais, hein, qui est là. Hein. Ça, c'est nos lycées. Hein. Dans les lycées, nous avons deux carrières qu'on veut, deux spécialités qu'on veut continuer au CIA. C'est gastronomie. Et gastronomie, c'est pas chef, comme on me disait aujourd'hui. C'est cuisine, restauration, toutes les spécialités liées à ce domaine-là. Et on a aussi électrique et électronique. C'est les deux qu'on veut refaire à ce niveau-là, hein, pour des gens qui ont décroché, hein, qui sont hors du système et qui reviennent au système à travers le CUA, soit jeunes ou soit adultes. La moyenne actuelle du CUA, parce qu'on a un CUA tout petit, avoisiné dans une école, hein, on a 400 élèves, et la moyenne d'âge, c'est 26 ans. Hein, là, c'est cette structure-là, elle doit s'articuler avec un CFT, c'est un centre de formation technique supérieure. Hein, et s'articuler, ça veut dire que nous, on ne va pas faire un CFT. Hein, on est en train de parler avec INACAP, qui est un des instituts de qualification les plus importants qu'il y a au Chili, qui est payé, hein, mais que maintenant, il y a un financement de l'État pour produire l'articulation entre les deux systèmes. Hein. Et ce CFT-là, INACAP en particulier, qui a été créé pendant le gouvernement d'Allende, qui était pour former, pour qualifier les ouvriers. Aujourd'hui, comme je dis, c'est une institution privée qu'il faut payer. Mais elle a acheté aussi une université. Donc, si nous, on fait ce partenariat avec INACAP, on a la possibilité aussi d'aller au-delà de la formation technique supérieure et de faire l'articulation aussi avec l'université dans ces deux domaines au moins. Si on travaille avec INACAP. Et il y a aussi ce CIA dans l'Université du Travailleur, on va aussi, comme commune, nous, on a des organismes techniques d'éducation et qualification, hein, que sont des figures qu'a développé l'OTA pour faire des qualifications, des cours de qualification qui fonctionnent actuellement par des systèmes, des appels d'offres. L'État demande, fait des licitations publiques et ces OTEC présentent des cours d'une certaine quantité d'heures et l'État dit, à travers le ministère du Travail, décide lesquels il va faire dans quelle commune, sans penser dans itinéraire de formation. Donc nous, on reçoit beaucoup de cours, mais les gens font un jour cuisine. Peut-être 6 mois après, ils vont faire garde de sécurité. Peut-être 1 an, 2 ans après, ils vont avoir accès à un cours de conducteur. Il n'y a aucun rapport entre une formation et l'autre. Et ce qu'on veut faire, c'est profiter de ces ressources et les organiser dans un itinéraire de formation. Hein. Tant pour les CEIA, tant pour des travailleurs ou des personnes qui ne veulent pas rentrer dans le système continu. Hein. Et aussi, on va mettre dedans Omil te orienta, ça veut dire les bureaux de recherche de travail. Hein. Mais c'est pas seulement orientation, mais c'est comme des agences d'emploi, hein, locales, hein, qui fonctionnent dans toutes les municipalités du pays. Hein, pas très bien, mais on veut la réorienter dans ce sens-là, hein, pour orienter bien les personnes, recruter bien, dériver bien dans le système. Hein, et et aussi les communes reçoivent des appuis pour des micro-entreprises. Hein, et l'objectif, c'est ou bien une insertion au travail dépendant ou bien une insertion au travail indépendant. Hein. Pour compléter, c'est pas sur, sur le schéma, le concept de l'université du travailleur, c'est la professionnalisation, si on veut, des métiers. Hein. On ne veut pas seulement former des ouvriers pour le travail, hein, avec une formation technique. On veut aller au-delà et, comme je dis, élargir les horizons. Hein. Et plutôt que de former des ouvriers, on veut former des personnes hein, qui peuvent travailler dans leur choix et où ils veulent. Hein. C'est ça notre objectif. C'est un objectif très ambitieux pour la commune. Hein. Je ne crois pas que pour les besoins d'un être humain, mais pour la commune, c'est très ambitieux. Et on veut mettre l'accent sur la qualité hein, et sur les formations, pas seulement techniques, développement des habiletés manuelles, hein, sinon des habiletés, non, on ne dit pas des habiletés, aptitudes, compétences, capacités sociales et qui sont très importantes à développer dans des personnes qui ont déjà un handicap important dans la formation primaire et secondaire. Hein? C'est pour ça que Mendes France, quand Didier et Alfredo sont allés au Chili, je leur ai présenté le projet. Et c'est surtout, je leur ai offert 100 mètres carrés du terrain pour installer un mini centre Mendes France. Mais c'est important dans une commune comme Cerro Navia, faire le pari pour avoir un référent sur la formation comme message, hein, sur l'importance de la connaissance, du savoir dans un pays qui... Et ces domaines-là sont pour les privilégiés. Hein. Et donc, pour nous, c'est très important d'aller au-delà, et, ça, et j'insiste sur ça, aller au-delà de la formation technique. Hein. Et je préfère former au lieu d'un charpentier, même si Jésus-Christ était charpentier, hein, et je préfère former un charpentier, plutôt qu'un charpentier, un architecte du meuble, hein, pensant que si on forme le programme d'un architecte du meuble, on va penser à l'histoire de l'art, on va penser au design, on va penser à d'autres éléments hein, qui c'est au-delà du marteau, du clou et del serrucho, je ne sais pas, que la scie. Et c'est ça un peu l'objectif hein, et ce centre de référence c'est un modèle qui n'existe pas au Chili hein. Je crois que ça n'existe pas aussi non plus parce que c'est que j'ai été à Île-de-France lundi et mardi il y a tout ça mais dans différents espaces il y a l'école de deuxième chance il y a les centre de formation d'apprentis, il y a aussi le micro, les appuis pour les micro-entreprises, mais la différence, c'est que nous, on est en train de former un espace où tout ça est un lieu et puisse se complémenter et coordonner et articuler. Hein? C'est un peu ça, je ne sais pas si j'ai été claire, si vous avez des questions. Mais c'est tout ce que je peux vous dire.
D'abord, félicitations pour ce projet. C'est vraiment magnifique. Hein. Merci. Je pense qu'il faut beaucoup de courage, d'ailleurs, pour le développer. Mais je sens que vous l'avez. Je voulais simplement vous demander, cela va concerner combien de personnes ? Est-ce que vous avez fait peut-être une sorte d'étude du marché, entre guillemets, sur le nombre de personnes que cela peut concerner ?
Le besoin est beaucoup plus large que ce que l'espace aura la possibilité d'accueillir. On pense à à peu près 1000 étudiants. Une petite anecdote. Il y a 2 ans, là, comme l'éducation primaire publique municipale va en descente, les matriculas, hein, on a fait une campagne pour inscrire les enfants dans les écoles, pour augmenter la matricule. Pourquoi on fait ça? Parce que le financement de l'éducation dépend de la quantité d'élèves qu'on a, hein, et de l'assistance en plus des élèves. Quand l'élève n'arrive pas à l'école parce qu'il est malade, parce qu'il ne veut pas y aller, il n'y a plus, pas de financement. Donc on a fait une grande campagne pour s'assurer d'avoir un nombre critique, bien critique, dans le sens positif, pour financer l'éducation. Et on s'est retrouvé que la plus haute demande, c'est des adultes, hein, pour des mises à niveau et surtout pour des métiers, hein, et pour la formation technique. Donc la demande est beaucoup plus grande que ce qu'on va être capable d'offrir à partir de ce centre. Hein. Et on pense en plus que c'est un projet de la zone ouest. La zone ouest, nous faisons à peu près 500 000 habitants. C'est une population très nombreuse. Donc c'est une offre très petite toujours, parce qu'il n'y a aucun centre de formation dans la zone. Hein? Oui?
Merci Christina pour ce bel exposé et pour ce très joli projet. Je voulais simplement, pour que tout le monde comprenne un petit peu les enjeux d'un tel projet, rappeler 2 ou 3 choses que tu n'as peut-être pas dit sur le Chili. La première des choses, c'est que, contrairement à la France, l'université n'est pas accessible à tout le monde. Il y a un concours pour y rentrer. Et les gens se placent, les étudiants se placent en fonction des notes obtenues au concours. Les meilleures notes, donc ceux qui ont eu la meilleure éducation, vont dans les grandes universités, qui sont la plupart du temps fortement aidées par l'État et qui ont des bourses qui permettent aux étudiants de ne pas trop payer. Et les étudiants qui sont moyens et très moyens et à la limite de la capacité de faire des études, sont eux obligés de se rabattre sur des universités de 2e, 3e, 4e catégorie, puisque le secteur privé a mis en place des universités dans lesquelles on enseigne pour devenir infirmier ou pour devenir aide ménagère ou pour devenir des choses que l'on a du mal à concevoir, nous, en France. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, et qui est aussi important, c'est que nous sommes dans un pays où la durée légale de travail est 35 heures, même si elle peut être de temps à autre remise en question. Au Chili, la durée légale de travail doit être de 48 ou 50 heures par semaine. Et au Chili, vous pouvez aller faire vos courses dans un supermarché jusqu'à 10 heures du soir ou minuit sans aucune difficulté, parce que tout reste ouvert.
Samedi et dimanche,
oui. Et donc, il y a un mode de vie qui est tellement différent du nôtre que les gens ont beaucoup de difficultés à aller s'éduquer, parce que quand ils ont été occupés 60 ou 70 heures dans la semaine, 2-3 heures par jour pour aller sur un lieu de travail potentiel, autant pour revenir, et la plupart du temps à la limite de l'alimentation équilibrée, retrouver de l'énergie pour aller en cours du soir ou pour aller se former est vraiment très 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 important. Donc le contexte de cette initiative est, à mon avis, très très intéressant. C'est un véritable challenge, comme disent un certain nombre de personnes, mais c'est sûrement une opération extrêmement intéressante. Si elle réussit, elle sera copiée dans beaucoup d'autres endroits, non seulement au Chili, mais probablement aussi dans d'autres pays latino-américains.
Je crois que vous disiez que le budget de Mendes France est 2 millions. d'euros. Presque 3 s'il y a l'État qui apporte le 10%. Et mon budget annuel, je ne sais pas si vous avez retenu, d'investissement dans la commune, c'est 400 000 euros par an. Et j'ai beaucoup plus de besoins, nous avons beaucoup plus de besoins que ce qu'on peut faire avec 400 000 euros. La façon que l'État, et c'est très particulier parce que c'est un peu comme les jeunes doivent lutter pour arriver à un organisme de formation supérieure, la commune doit lutter aussi pour avoir des projets financés. L'État n'apporte pas un budget dans les communes. On doit présenter des projets, hein, et on doit les gagner et on doit les disputer avec d'autres communes. Hein. Et par exemple, ce projet-là, je l'ai présenté à la région il y a 5 ans, hein, et je l'ai obtenu l'année dernière, mais après un très fort lobby où il y a la communauté qui s'est mobilisée, on a dû faire beaucoup de mouvements pour avoir l'argent pour construire l'université du travailleur. Il y a des projets, hein, qu'on a présentés il y a 14 ans et qui se sont pas encore, et ce sont des projets urgents, c'est pas ça, c'est un luxe, hein, hein, et oui, mais c'est la seule possibilité. Toutes les places qu'on a fait, tous les établissements qu'on a fait, tous les dispensaires de santé, tout ce qu'on peut faire, hein, on l'a fait en présentant des projets, pas parce qu'on a le budget pour le faire. Et c'est un effort énorme de réussir la plus petite des choses dans une commune comme la nôtre. C'est pour ça que ce projet, c'est vraiment un luxe qu'on se pose, hein, parce qu'on a d'autres besoins très importants. J'ai pas les images, mais on a un trou à la commune de 20 hectares qui reçoit les déchets de toute la région, hein, et il y a des logements des deux côtés, hein, des 20 hectares, et c'est un problème sanitaire très important. Ça fait très cher d'avoir un parc, qui est le projet qu'on est en train de présenter. Et ce projet-là, par exemple, on l'a présenté il y a 14 ans et ce n'est pas encore financé de la part de l'État. Et c'est un problème très, très grave. Et c'est pour ça que quand je présente ce projet, c'est vraiment un rêve, c'est vraiment un luxe. Mais c'est ce que nous pensons comme commune. Et c'est tous les secteurs politiques et la communauté aussi qui pensent que c'est vraiment la possibilité d'un levier pour le développement dans une commune où il n'y a rien d'autre que de personnes. Hein, nous, notre capital, ce n'est pas les sous, c'est les personnes. Et le pari qu'on veut faire, c'est le développement des personnes. Hein, c'est ça. Je ne sais pas s'il y a d'autres... On est à deux, hein. Il y a deux qui ont posé des questions pour toi, deux pour moi. C'est bien. Merci.
Vous auriez pu poser une troisième question pour Christina. Bravo pour ton français aussi, parce que c'est... Non, c'est... Bon. Voilà, donc simplement vous dire qu'on est en train de discuter non seulement avec Christina, mais également un certain nombre d'autres structures, y compris, elle a évoqué, la région Île-de-France qui aide le projet. Hier, on est allé voir à la région le projet de lycée Kyoto pour voir comment les choses se passaient par rapport à la notion de gastronomie. Donc y a des alliances qui sont en train d'avoir lieu. Donc Alain Clès, qui n'a pas pu être là ce soir, on l'a croisé hier soir longuement. Et donc a indiqué que dans les orientations générales de la ville, lancer des actions de coopération décentralisée, puisque tel est le terme en France, sur ce type de projet avec l'espace Mendès France paraissait non seulement pertinent, mais aller dans le sens de ce qu'il fallait faire dans les 10 prochaines années. Donc simplement, on va élaborer un protocole d'accord entre la ville de Poitiers, Serro-Nabia et puis l'espace Mendès France, en espérant que, puisque la région Île-de-France a souhaité qu'il y ait une discussion qui soit ouverte aussi avec la région Poitou-Charentes, il puisse y avoir un collectif et nous, de manière modeste, on puisse apporter notre pierre culturelle et scientifique autour des métiers, du numérique, de l'apprentissage, du planétarium ou des choses comme ça, donc contribuer au cœur de l'université des travailleurs à un plus en termes culturels. Donc voilà, donc c'est une aventure qui commence pour nous collectivement. Et donc moi je voulais te remercier pour l'accueil que tu as pu nous faire dans cette commune qui est, les images ne le montrent pas assez, qui arrive d'une histoire dévastée. Donc tu es vraiment extrêmement courageuse parce que tu as porté cette population et cette communauté. Moi, j'ai fait une visite à Serro-Nabia avec Christina. Elle connaît les prénoms de tout le monde, on lui fait la bise, tout le monde. Voilà, donc là, on voit que tu portes une communauté de manière extraordinaire. Donc, il y a un capital d'empathie et d'affection autour de ce projet qui est assez, assez fantastique. Donc, je crois qu'à notre niveau, dans les relations qu'on a avec le monde universitaire et de la recherche, il y a des choses qui peuvent donc nous servir d'intermédiaire. Et donc, l'idée, c'est que ce protocole d'accord puisse être signé fin septembre, en espérant que, y compris les deux régions, puissent se rapprocher, puisque la vice-présidente de la région Île-de-France a été vue il y a quelques jours, et donc qu'on puisse se rapprocher de la région pour développer une opération qui est tout à fait originale et singulière, puisque rien de tel n'existe encore dans les relations entre la France et puis l'Amérique du Sud, et le Chili en particulier. Donc merci de cette présentation. Président, est-ce que...
Merci Christina, c'était fort intéressant. Est-ce que quelqu'un veut intervenir ? Alors nous allons passer la parole à Madame la Présidente de la Société d'Histoire.
Merci.
Merci à vous de cette invitation. Je vais être brève parce qu'il est un peu tard et qu'on est tous un peu fatigués. Mais je tenais absolument à redire le bonheur de la collaboration entre la SFSGST et le Centre Mendès France. Collaboration exceptionnelle, parce que j'en connais pas d'autres, et qui ne se réduit pas seulement à un soutien logistique, qui pour nous est extrêmement important, mais aussi la société bénéficie de la formidable connaissance qu'a Anne Bonnefoy du milieu des historiens des sciences. Et donc on est ravis de cette collaboration-là. Et j'ai pu remarquer que plusieurs membres de la société participaient régulièrement aux conférences qui étaient faites ici. Et donc ça, c'est aussi un point intéressant. Alors, je voudrais rapidement souligner le fait que la FSHST et Mendès France avaient un objectif commun, il me semble, qui est celui de promouvoir l'histoire des sciences en tant que discipline à part entière. Et ça me paraît très important de le souligner. Si vous me le permettez, je vais faire très très rapidement l'état des lieux de l'histoire des sciences en France. Très souvent, l'histoire des sciences s'est vue comme, je dirais, un vernis culturel, soit pour, j'ai envie de dire, pour être méchante, les personnes âgées qui ont comme ça des choses à raconter le soir dans les dîners, ou alors c'est aussi un vernis culturel pour les étudiants en sciences qui sont bien contents des fois d'avoir une UV d'histoire des sciences qu'ils considèrent en général comme assez facile à obtenir. Et bon, l'histoire des sciences est souvent réduite à ça. Je rappelle qu'en fait, il y a très peu d'enseignements d'histoire des sciences en France. À ma connaissance, il y a 3 masters d'histoire des sciences. Il y a donc quelques UV d'histoire des sciences dans des filières donc scientifiques, dans les filières de philosophie, dans les filières d'histoire. Ce qui fait que dans le strict cadre de l'université, l'histoire des sciences est inféodée aux autres disciplines que sont donc l'histoire, la philosophie, les mathématiques, la physique, etc. Bon. Et cette inféodation, elle est très importante et elle a des conséquences sur l'histoire des sciences elle-même. Un département de mathématiques qui va recruter un historien des mathématiques comptant le faire enseigner dans sa licence, enfin ça s'appelle plus licence maintenant, si, de mathématiques, va privilégier, par exemple, un historien capable de travailler sur les périodes modernes qui intéresseront plus facilement leurs étudiants que les périodes anciennes ou le Moyen-Âge sur lequel je travaille, par exemple. Alors, en France, on a quelque chose, un organisme extraordinaire qui, malheureusement, est extrêmement en danger en ce moment, qui est le CNRS. Et l'histoire des sciences a une place très importante au CNRS. Et le CNRS permet que, justement, l'histoire des sciences se développe indépendamment de ces disciplines que je rappelais, tout en dialoguant avec ces disciplines, puisqu'on ne peut pas imaginer d'histoire des sciences sans dialogue avec les historiens, avec les philosophes, avec les mathématiciens, etc. Mais au CNRS, on peut défendre une discipline à part entière, qui est l'histoire des sciences. Et pourquoi j'ai fait ce détour par l'université et le CNRS, c'est qu'il me semble qu'au Centre Mondaine France, et c'est un des très rares lieux en France, et moi même je connais que celui-là, de diffusion de culture scientifique, où l'histoire des sciences le Centre Mondaine France fait appel aux meilleurs historiens des sciences, je dirais, de France, aux spécialistes, à ceux qui défendent justement une histoire des sciences à part entière, et ça pour le plus grand public. Et ça me paraît quand même très important de le souligner. Et j'ai remarqué, par exemple, dans le programme, que l'ancien président de la Société française d'histoire des sciences, qui était Bernard Joly, a fait une conférence qui s'intitulait « Quand l'alchimie était une science ». Or, cette conférence était destinée à un grand public, puisqu'elle s'inscrivait dans le cadre de la formation continue, et donc était ouverte à tous. Or, le sujet qu'il traitait est un sujet qui est polémique à l'intérieur même des historiens des sciences. Donc c'est pour vous dire que les conférences qui ont lieu ici sont le reflet des débats de la communauté et sont à la pointe de ce qui se fait en ce moment en histoire des sciences en France. Je termine en disant que cette spécificité du CNRS en particulier fait que s'est développée en France une histoire des sciences française qui est souvent louée par nos collègues étrangers. Et donc, c'est bien que l'espace Mondes France soit aussi la vitrine de cette histoire des sciences typiquement française. Voilà, donc je vous remercie beaucoup, l'espace Mondes France, de donner cette place importante à l'histoire des sciences. Voilà, merci. Merci.
Bien. Merci de cette intervention, puisque l'histoire des sciences, c'est une aventure qui a commencé en 93 pour nous. Donc il faut du temps. Et c'est grâce à la ville de Poitiers qu'on a eu ce temps.
Merci, il se fait tard. S'il y a encore quelques questions à poser, allez-y. Et après, nous irons boire un coup à l'étage supérieur. Alors, traditionnellement, mais Michel n'est pas là, on parle des collections. Cette fois-ci, nous ne parlerons pas des collections. Malgré votre déception, mais on vous promet que la prochaine fois, on en parlera.
Il y a une question, là.
C'est pas vraiment une question, c'est une articulation entre l'intervention de Christine et la dernière. Je crois que c'est au mois de février, dans une revue, peut-être Science et Vie, il y a eu une enquête faite auprès de chercheurs scientifiques. Est-ce que c'était au niveau français ou européen ? La question principale était, enfin une des questions principales de cette enquête était, est-ce qu'au cours de ces trois dernières années, dans les études que vous avez menées, conduites dans vos laboratoires, vous avez caché une partie des résultats ou modifié un petit peu les conclusions de vos études sous pression de certains financeurs privés essentiellement. Et deux tiers des chercheurs ont dit oui, effectivement. Alors c'est une enquête plus ou moins anonyme, il n'y a pas la liste de ceux qui ont... Mais je veux dire, il y a un enjeu majeur au niveau de l'accès à l'information plurielle, et je crois que l'espace Mondes France y contribue. J'ai envie de dire en note positive, entre autres, que un des meilleurs moments que j'ai vécu sur l'année passée, c'était la journée et demie sur les OGM. Si on restait que la première demi-journée, on disait merde, Mondes France roule pour pro-OGM. Mais si on venait sur les trois demi-journées, on avait suffisamment de billes pour se faire une opinion avec la diversité des intervenants qu'il y avait. Donc ça, j'ai envie de le dire parce que c'est aussi comme ça que je me forme à, et que chaque personne, puisque c'est ouvert et gratuit, peut, s'il a des journées de libre à ce moment-là, y contribuer. Et il y a un enjeu majeur à ce niveau-là. Et quand la dame parle de l'histoire des sciences, je crois aussi qu'il faut aussi se projeter, à partir des indices qu'on a actuellement sur les orientations scientifiques et les réponses ou pseudo-réponses technologiques, résultat, actuellement, les votes ou les décisions concernant les essais OGM en plein champ ou la culture en plein champ, il y a des instances qui essayent de réagir du style science citoyenne, des chercheurs qui sont en situation qui sont au tribunal actuellement, je pense à Christian Vélo, des chercheurs à l'INRA qui sont un peu mis dans le placard parce qu'ils dérangent, style Jean-Pierre Berland, et un chercheur qui fait du boulot en sortant des études comme la majorité, c'est un bon chercheur pour certains décideurs. S'il dit des choses dérangeantes ou contradictoires, c'est un traître. Et je crois important que Mendès France contribue à ouvrir ce débat à cette diversité de points de vue. Alors effectivement, on ne peut pas faire venir que des charlatans, parce que voilà, il faut aussi qu'on ait des bases. Mais j'ai mauvais souvenir d'une soirée sur les téléphones portables, les antennes, où le gars était, je trouvais, de très très mauvaise foi, mais je pense qu'il roulait pour les entreprises de téléphonie pour dire « Allez-y, il n'y a pas de danger, continuez de mettre des antennes à côté des écoles, ça va. » Mais j'ai envie d'insister un petit peu là-dessus. Et quant à revenir sur le projet au Chili, que je ne connais pas, je me disais, il y a possibilité de créer une maison pour que les gens viennent, et puis il y a aussi la possibilité, alors je ne sais pas dans quelle mesure vous le faites, mais de construire cette université avec les habitants. Peut-être qu'il y a certaines constructions dans cette université, ou certains aménagements sur le plan technique, électrique ou autre, qui pourraient être faits avec les habitants. Et un lien avec la France, j'espère que dans les ateliers de cuisine, vous ne cuisinerez pas trop de pommes importées de France. Nous, on mange des pommes du Chili en hiver. Ça donne du boulot aux producteurs chiliens, mais peut-être que ce n'est pas tellement cohérent au niveau du coût énergétique et autres du transport sur 15 000 km. Et ça, on voit la question plus générale, peut-être pour une université des travailleurs, c'est quel sens on donne à sa vie, à ses besoins personnels et collectifs, et en quoi on peut contribuer à se faire plaisir dans son boulot et à se sentir utile pour un pays. Parce que les notions de démocratie, vous pourriez nous en parler beaucoup plus que nous, on peut en parler, même si on a, pour certains d'entre nous, des inquiétudes sur ce qui se passe actuellement en Europe, entre autres.
Bien, merci. Simplement, avant d'aller prendre le verre de l'amitié, je voulais saluer la présence de l'ambassadeur de l'espace Mendès France au Chili, Jaime Retamal. Bonjour, Jaime. T'as fait bon voyage. Et Jaime est venu donner des cours à Lisbonne, et il a fait le voyage pour cette soirée, donc Jaime Retamal est le représentant de l'espace Mendès France au Chili et il est le porteur de l'esprit de la maison. C'est la première fois qu'il met les pieds à l'espace Mendès France, mais il avait confiance. Donc moi je pense que ça s'est pas trop mal passé. Hein. Donc je vous invite tous à nous retrouver pour le verre de l'amitié. Puis merci à tous.